Bonjour à toutes, bonjour à tous, installez-vous confortablement dans votre siège, les pubs viennent de se terminer, les lumières s'éteignent, la séance de la troisième rangée va commencer. Peu de grosses sorties, très réjouissantes en ce mois de mai, on a fait avec ce qu'on avait sous la main, mais du coup on est allé un peu à l'aveuglette au ciné, on va voir ce qui en est sorti. On est allé se bouffer du blockbuster à l'américaine, ça y en a toujours, on va revenir sur Avengers, Infinity War et Rampage, et surprise, parce qu'on n'est pas toujours prévisible, on a plutôt bien aimé. Julie, d'humeur vaillante, est allée en solitaire voir Lynn and Pete et Une femme heureuse avec Gemma Arterton. On verra ça tout à l'heure. Vu qu'on est 6 de Francfort, on a traversé la frontière allemande, voir la révolution silencieuse, sauf Laurent qui a raté son drift et sa séance, et qui a terminé sa course dans MILF d'Axel Lafont, avant de se faire rejoindre par Maxime, pas dans MILF, mais dans Cornelius le meunier hurlant, palme du titre rigolo de la saison. On fera enfin un petit écart avec Action ou vérité, le dernier de Blum. Enfin, après avoir fait le tour des salles, on a fait le tour du canapé. Ça sera avec Psychokinesis, du réalisateur de Dernier Train pour Poussan, et As We Are, une Sundancery, dispo sur e-cinéma.com. En fin d'émission, pour s'ambiancer dans la bonne humeur, dans ce contexte télévisuel, impossible de ne pas s'inspirer du Burger Quiz d'Alain Chabat. On vous préparera donc un quiz façon L'Addition, vous m'en direz des nouvelles. Je suis Robin, je serai votre présentateur pour cette émission, et autour de moi, j'aurai Florent. Bonjour.
Bonsoir Robin.
Julie, bonjour.
Bonsoir Robin.
Nam, bonjour.
Bonjour, j'ai regardé tous les épisodes du Burger qui sont sortis, je suis chauffé.
T'es chauffé, très bien. Max, bonjour.
Salut Robin, salut à tous.
Et Laurent.
Salut Robin, et moi il me manque deux.
Il t'en manque deux, bah il m'en manque trois, donc on a tous
à
des
deux
niveaux
et demi
différents.
Pour moi. De... Ouais. Donc pas de spoil. Hein.
D'accord, on ne spoil pas. Il faut noter que Florent, on est très heureux déjà de t'avoir parce que ça fait très longtemps, oui, t'es dans les premières émissions et puis la vie.
La vie m'est tombée dessus,
exactement.
Sur le coin de ma gueule avec une petite fille, tout à fait.
Et donc on est très heureux pour toi.
Merci.
Et
félicitations.
On rappelle aux éditeurs qui ne connaissent pas Florent, que Florent est le genre de type à enregistrer des émissions sur un enregistreur.
Oui, tout à fait.
Ce qui situe l'homme, je pense, ses valeurs, sa morale.
Et son âge.
Et son âge, évidemment, je sais pas le dire. Avant de se lancer dans les films du mois, je vous propose de parler d'un film où des vieux asiatiques font le signe de Joule avec les doigts pour s'envoyer des rayons électriques mortels. C'est Les aventures de Jack Burton dans Les griffes du mandarin, c'est de John Carpenter, et c'est parti. This is Jack Burton and the Pork Chop Express, and I'm talking to whoever's listening out there. It's a pretty amazing planet we live on here, and a man would have to be some kind of fool to think we're all alone in this universe. There is a hidden world where ancient evil weaves a modern mystery. What's going on here? Is this some kind of... Magic. The darkest magic. Ow! They call it Little China. Finally, we shall bring order out of chaos. On lance donc le coup de projo, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, le titre anglais rigolo. C'est Big Trouble in Little China, c'est réalisé par John Carpenter, c'est sorti en 1986, c'est avec Kurt Russell évidemment. Kim Cattrall, Dennis Dunn, James Hong, Victor Hong et Kate Burton, ça a été proposé lors de la dernière émission par Quentin qui n'est pas là mais qui est repris par Florent, qui est le spécialiste en chef juste après Quentin de Carpenter, en tout cas t'aimes beaucoup et tu as beaucoup aimé Jack Burton qui est... Selon toi, un des films les plus méconnus de Carpenter, en tout cas, nous, en tout cas, autour de cette table, on était beaucoup à ne pas l'avoir vu, mais on connaissait un petit peu l'existence, mais sans l'avoir fouillé. À ton avis, sans rentrer dans le film, qu'est-ce qui a manqué à Jack Burton pour être connu du monde entier ?
Qu'est-ce qui a manqué ? En fait, c'était dans un contexte assez particulier de l'œuvre de Carpenter, c'est juste après plusieurs échecs, après The Thing qui a été un bide. Parce qu'il était sorti notamment le même jour que E.T., donc les gens ont choisi leur camp à ce moment-là. Il y a eu Starman juste après, qui avait été une comédie, enfin pas une comédie romantique, mais une sorte de mélo fantastique qui n'avait pas trouvé son public. Donc Carpenter était un peu en galère et il s'est retrouvé donc à faire une sorte de... Moi, la dernière fois que je l'ai vu, je me suis dit que c'est un Indiana beauf en fait. C'est-à-dire un Indiana Jones... avec un personnage titre, donc Kurt Russell, qui est complètement la ramasse du début à la fin, qui ne fait rien, en fait.
Mais justement, le pitch, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?
Le pitch, en fait...
Dans les griffes du mandarin, comme
ouais,
ça.
Ouais, le pitch, c'est qu'en fait, Carpenter a voulu rendre hommage à tout un pan du cinéma d'exploitation, notamment asiatique, avec tout ce qui sont notamment les kung-fu comédies. et les Wuxiapan, donc les films d'arts martiaux japonais, enfin asiatiques.
Asiatique, ouais.
Et donc en fait, le film, c'est effectivement une sorte de méli-mélo, j'ai envie de dire, de plusieurs influences mêlées avec un style, le style Carpenter, donc qui est un petit peu, ouais, avec ce petit côté ringard, notamment dans la musique, que moi j'apprécie en fait.
C'est très ringard, en plus, oui, les années 80 rajoutent une couche aujourd'hui au visionnage. Quoi,
et puis on parle de, bah, le mec, c'est un chauffeur routier, je n'ai rien contre mes amis chauffeurs routiers, mais, et puis bon, il a quand même une sacrée mulette aussi, donc ça pose le personnage, et puis c'est le cinéma de Carpenter qui est aussi comme ça, c'est une sorte de... Ouais, de cinéma beauf, mais qui s'assume et qui que je trouve complètement réjouissant dans ses références, dans le délire visuel que propose le film, des effets spéciaux, que ce soit mécanique ou numérique, que je trouve.
Parce que justement, il y a beaucoup d'effets spéciaux dans ce film parce qu'il y a un côté presque ésotérique, puisqu'il découvre l'underground du Chinatown de San Francisco. Et il s'y passe des jeux de dieux et de déesses et de spectres ancestraux, Nam. C'est un film, toi qui es un peu spécialiste, très amateur de nanar en tout cas, est-ce qu'on peut considérer Jack Burton comme un nanar, ou est-ce que c'est une parodie de film d'action, ou c'est un film sérieux qui est juste ringard aujourd'hui?
Non, moi je dirais que c'est plutôt un film hommage de Carpenter, bah voilà, envers tout un pan du cinéma hongkongais, chinois, bah avec voilà, énormément de... En fait, pour moi, le personnage du camionneur... de Kurt Russell, en fait, c'est John Carpenter qui a regardé énormément de films d'importation chinoise sans rien comprendre. Et il s'est fait, ok, je vais essayer aussi de faire partager cette passion que j'ai avec d'autres personnes pour faire un film où les gens qui vont le voir en général ne connaîtront pas de toute façon les références qui sont apportées, donc ils pourront pas savoir si oui ou non ça correspond à tel mythe ou à telle croyance ou voilà. Et les gens seront autant aussi perdus que le personnage. Mais pour les autres, ça va, parce que c'est leur univers. Mmh. Et oui, j'ai beaucoup aussi aimé les effets spéciaux. Il y a un petit côté un peu Cronenberg pour certains monstres, notamment l'espèce de...
Cronenberg,
de...
donc. Cronenberg, c'est...
Ouais, Cronenberg.
Ça vient après, ça.
Merde, je suis sûr d'avoir...
Je vais pas la monter, celle-là. Elle restera tranquillement dans l'émission.
L'espèce de tête flottante, toute dégueulasse. Il y a un côté un peu body horror, mais c'est les mêmes années.
Le personnage qui gonfle aussi.
Ouais, il y a ça aussi.
Du coup, c'est vrai que... visuellement, sans rien cacher, ça a pris un sacré coup de vieux et
Un coup de vieux comme un film qui a 30 ans. J'ai toujours du mal à dire qu'un film il a vieilli parce qu'il date
plus
de
jeune
86.
Que toi, le film,
je suis, j'ai pas vu le film à sa sortie. J'aurais pu si mes parents avaient été très permissifs. Mais c'est un film pour moi qui, enfin, il a vieilli, oui, certes, puisqu'il est dans les faits, il a 32 ans. Mais moi je le vois comme une sorte
c'est pas le truc qui choque le plus dans ce film là.
Je peux comprendre qu'il y ait le côté ringard, mais je trouve qu'il est complètement assumé. Et pour moi, c'est pas du tout un nanar. Parce que c'est...
D'accord. Qu'est-ce qu'il sépare d'un nanar du coup?
C'est que le nanar, c'est un film qui se veut. Les vrais nanars sont des films qui se veulent sérieux, mais qui sont ratés pour cause d'incompétence en fait. Là, c'est pas du tout le cas. Carpenter, c'est un mec qui sait ce qu'il fait, c'est un mec qui est compétent, c'est un très bon technicien, ça y est, même pas tortillé là-dessus, même si toi tu n'es pas très fan, Robin.
Je suis pas fan, mais il sait ce qu'il fait, voilà. Il fait pas n'importe quoi,
on peut pas,
quoi,
on peut pas retirer
pas
le fait
où,
que c'est un mec qui connaît son métier, et voilà, c'est juste qu'il a voulu faire une sorte de parodie, il s'est fait plaisir, et donc pour moi non, ça n'a rien à voir avec un nanar.
Donc moi, parodie...
Excuse-moi, je trouve que ça s'apparente un peu à ce que au travail, et ça relance un débat qu'on a depuis longtemps avec Nam, mais je trouve que ça s'apparente un peu au travail de Tarantino, dans le sens où j'ai l'impression qu'il vient réutiliser des codes d'un cinéma qu'il apprécie, et qu'il essaye de les proposer, et de les... Pas forcément de les transformer, mais de les rendre un peu accessibles. Je sais pas ce qu'il a manqué pour moi dans ce film, mais effectivement, j'ai eu un peu de mal à y accrocher, mais j'ai vraiment eu l'impression que, avant que ça soit un nanar, c'est un vrai film de cinéphile, en fait, qui s'adresse aussi aux cinéphiles, mais qui a été vraiment... On sent que ça a été fait par un cinéphile.
Effectivement, c'est ce que je voulais y venir. On a... Ceux qui ont vu une parodie d'Indiana Jones, ceux qui ont vu la référence aux cultures, les deux, hein, très certainement chez Nam et Florent. Il a manqué quoi? Je vais m'adresser par exemple à Laurent. Maxime, t'en as dit un petit peu, mais qu'est-ce qu'il a manqué chez Jack Burton? Moi, je suis aussi de votre avis, mais mes arguments sont peu recevables.
Moi, je trouve que c'est plutôt gros. En fait, tout ce qui est grossier, du coup, j'ai l'impression de voir les ficelles à chaque fois, ou même sur le montage, sur la façon dont les mecs chutent, sur les scènes de combat, etc. J'ai l'impression de voir que ça, des mecs qui plongent sur des matelas. Et en fait, du coup, ça me sort totalement du film, quoi. Je suis incapable de rentrer dans l'histoire. Et après, c'est sûr que les références, moi, je les ai pas, donc ça me fait pas vibrer. Mais en plus, comme je vois bah, j'ai l'impression de voir les câbles, les mecs qui tombent sur des matelas. Enfin, vraiment ouais. tout ça. Donc,
j'ai l'impression que ça fait partie de l'hommage.
Ouais, bah, ouais, peut-être. Peut-être les décors font très carton-pâte.
Bien sûr, ouais. Et puis,
c'est pas l'intention. Enfin,
on voit les limites du studio à l'intérieur. Ah, quoi, ouais. Ils font dans l'espèce de Chinatown. Ils sont dans des espèces de ruelles. On a l'impression de voir derrière les.
Ouais, t'entends les pchites de la fumée.
Ouais. Et bah, du coup, ouais, je. On sait très bien, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a des films qui sont pas pour tout public, et celui-ci ouais. c'est sûrement le cas, comme plein d'autres. Et ben, du coup, moi j'étais vraiment pas le public, quoi, de la même manière qu'il y a des gens qui peuvent être tout à fait.
C'est terrible d'ailleurs parce que. On veut pas faire un procès d'intention parce que ça serait complètement hors sujet, et c'est pour ça que j'ai pas parlé, j'ai pas pris la parole, et j'ai pas envie de dire que moi c'est un film qui m'a sorti par les trous nez, j'ai trouvé ça abominable parce que c'est pas recevable. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, tu rigoles, mais quelque part, j'ai zéro argument parce que c'est juste que je suis resté de marbre dessus. Ça m'a. Plus moi le côté action baston Carpenter j'arrive pas, je vois pas le but, ça me fait perdre mon temps, j'ai la sensation de perdre mon temps. Donc c'est ça qui est terrible, c'est que je peux pas condamner l'intention, et tout ce qui me reste c'est mon sentiment à moi, et c'est un peu frustrant sans nous qualifier de critiques, mais dans le sens de personnes qui essayons de donner un avis argumenté sur ce qu'on voit. C'est assez frustrant ce genre de film, je cache pas.
Ouais, si, moi il y a des scènes de karaté, des scènes de combat qui tu te laisses saper, enfin des fois tu peux te laisser.
Mais le pire, c'est que je me suis dit, pendant que je regardais, je me suis dit, j'aurais eu 12 piges, j'aurais kiffé. Mais il y a quelque chose qui s'est brisé.
T'as perdu ton âme d'enfant.
Ouais, je pense. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus.
Je pense qu'il faut, tu trouverais presque plus ton compte dans les films auxquels il a réussi à rendre. Enfin, auxquels il tente de rendre hommage plus que dans ce film-là.
Ouais, ouais, je pense. Je pense aussi, ouais. Comme quoi, enfin, la traduction vaut jamais.
C'est peut-être là-dessus que je dis que les scènes de karaté et de combat m'ont donné envie, en fait, de voir des vraies scènes de karaté ou de kung-fu qui étaient. Enfin, ça m'a donné envie. Je me suis dit, tiens, je me regarderais bien.
Mais il n'y aura pas Kurt Russell dedans, quoi.
C'est ça. Il peut y avoir Jackie Chan.
Et... Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est que alors, je l'ai pas du tout perçu dans le film, mais une fois que tu lis et que tu revois un petit peu les scènes dans ta tête, c'est intéressant, c'est que Kurt Russell a été pensé comme non pas le héros, mais comme le sidekick.
C'est le sidekick, en fait.
Voilà, c'est le vrai sidekick. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment vu. Il est nul à chaque fois. Il sert à rien dans les scènes vraiment clés, sauf à la fin.
Il se fait assommer.
C'est un peu la Ellen Page d'Inception, c'est-à-dire c'est la personne qui débarque. On est obligé de lui expliquer. Prendre par la main, faire t'inquiète pas, tout va bien.
Puis il y a des raciste scènes. Aussi. Et
oui, voilà.
puis même, il y a plein de scènes où les.
Ça,
les...
je sais pas si c'est vraiment le personnage ou c'est un peu toute la vision
des Américains. Il n'y est pas non plus.
Bah, après, il joue avec les codes, effectivement, avec les clichés du genre, c'est sûr.
Bien sûr, mais en tout cas.
C'est une époque où il pouvait se faire plaisir sans. Il n'y avait pas Twitter.
Oui, voilà. Bon. Réappropriation culturelle, tout ça.
On va clôturer le.
C'est mon hémoport.
On va clôturer la page sur Jack Burton. J'espère pour Quentin qui nous écoute en différé, qu'il sera heureux. J'espère qu'on aura fait au moins hommage à son choix. On le remercie en tout cas de nous avoir proposé ce coup de projo. On ne dit jamais non à un coup de projo. On va enchaîner tout de suite sur les sorties de la semaine. On a 9 films, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe. On verra. What do you think about all this, Charlie?
What do you mean?
Yeah, working the backside, being here in the asshole or nowhere.
I like working horses.
What's this one's name?
Leon Pete.
And here's number 6, Leon Pete.
You won, right?
Yes.
Look, if we're gonna be working together, you gotta get some manners. You gotta chew your food. What does your mom say?
I don't know.
Ouvrons la voie avec La Route Sauvage, réalisé par Andrew Hayes. C'est avec Charlie Plummer, Chloé Sevigny, Steve Buscemi et Travis Fimmel, entre autres. C'est un joli road movie que Julie est allée voir, et c'est un film dont tu es ressortie satisfaite sans trop en avoir en dire finalement.
C'est exactement ça, donc La Route Sauvage, en anglais Leon Pete, c'est l'histoire d'un jeune homme, Charlie Thompson, qui a très franchement une vie de merde, c'est-à-dire que sa mère est partie quand il était bébé, elle l'a lâché avec son père. Son père enchaîne les contacts féminines qui sont deux fois moins âgées que lui. Il gagne pas un rond, c'est son fils qui est obligé de se débrouiller pour arriver à manger le midi et le soir. Mmh. Et il arrive, disons, un jour malheureux, bon, sans trop spoiler, où le père est en difficulté et une des conquêtes féminines qui est mariée, bah, le mari vient lui casser la figure. Donc, ce pauvre Charlie Thompson se retrouve tout seul et étant tout seul, n'ayant ni amis, ni famille, et étant complètement orphelin, eh bien, il s'amourache d'un cheval qu'il ne veut pas voir être vendu, qui s'appelle justement Linon Pitt.
Ok. Donc ça, il y a un côté un peu sensible, je pense que c'est un film qui passe un peu tout seul tant qu'on est à moitié impliqué dans l'histoire, quoi.
Exactement, bah c'est, en fait c'est le road movie classique, donc sans forcément, sans être très prétentieux. Mine de rien, ça dure 2 heures, mais les 2 heures, il n'y a pas vraiment de ventre mou, ça passe tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on s'ennuie en particulier. Et dans l'ensemble, le point fort du film de La Route Sauvage, c'est surtout l'interprétation de l'acteur principal. C'est-à-dire il est vraiment extraordinaire, il joue super bien, on y croit, on est pris dedans. Et à côté de ça, disons qu'il y a, voilà, la photo est très belle, il y a de superbes paysages. Et globalement, c'est un film sur l'apprentissage, c'est-à-dire le passage de l'adolescence à l'âge adulte, donc c'est légèrement peut-être un poil convenu à ce niveau, mais c'est pas non plus mal fait, c'est pas prétentieux, c'est sympathique et ça se finit bien, quoi.
Ça se finit bien. On parlait à propos de Linon Pitt, justement, donc La Route Sauvage, qui avait quelques similitudes peut-être, si vous avez aimé The Rider, vous aimerez.
Oui, c'est certain. Bah, y a justement au niveau de la photographie, il y a pas mal de choses en commun. Donc on va dire que ça se focalise beaucoup sur les golden hour avec les levers, les couchers de soleil qui sont sublimes, des tas de couleurs qui vont avec. Et puis il y a aussi ce rapport à l'animal, au cheval, qui est commun aux deux et qui finalement a quelque chose d'assez moderne dans une époque où... l'animal retrouve, on va dire, ses lettres de noblesse et où on essaie de le considérer comme un être sensible. Donc sans en faire des caisses à ce niveau, ces deux films, The Rider et La Route Sauvage, remettent l'animal sur le devant de la scène.
Ok, donc The Rider, on en avait parlé il y a 2 émissions. Donc vous tapez La Troisième Rangée, SoundCloud, iTunes, Castbox, on est partout, on est Deezer, on est partout. Et enfin, on se focalisera un petit peu sur la future carrière de Charlie Plummer, qui est tout jeune, hein, qui a 18 ans, qui est américain, qui a joué dans The Dinner notamment, et dans Tout l'argent du monde. Il faisait le gamin dans Tout l'argent du monde.
Avec Christopher, du coup.
Je sais pas, mais il a un peu la même tête. Alors, faites l'investigation pour nous. Vous avez internet, c'est les podcasts, c'est ça. Hein, c'est de l'internet, c'est de l'information, c'est les câbles, tout ça. Hein. Ouais. Je dis ça pour Florent.
D'accord, c'est ça. D'accord.
Très bien. C'est la dernière vanne, je te promets. Sans quoi, ça va être lourd. Donc c'est la dernière vanne. On va enchaîner avec Avengers Infinity War, qui est un tout petit peu plus lourd que...
Que les blagues sur l'âge.
Exactement. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. Desperately that you're right, yet to fail all the same. Avengers Infinity War, c'est donc un film évidemment des frères Russo qui clôture la phase 2, 3, 70, je sais plus, de Marvel. C'est 3 ?
Non, la phase 3 se clôturera avec Avengers 4 l'année prochaine.
Pardon.
Donc c'est vraiment infini.
C'est infini.
Oui, oui.
C'est la guerre infinie, moi c'est un titre.
Mais
qui
le
me faisait
dans
très
le titre,
peur.
C'est pas fini.
Ça me faisait ultra peur et. On a été... Alors, je sais que Nam, les Marvel, c'est pas quelque chose... Enfin, t'aimes bien la culture. Par contre, les films t'ont souvent déçu récemment. Et là, on était tous les deux. Et au final, je pense qu'on est tous les deux sortis avec plutôt des choses positives à en dire. Qu'est-ce qui se passe dans Infinity War ?
Dans Infinity War, il se passe que ça fait déjà 10 ans que Marvel a commencé. Donc le film ne prend pas le temps de nous présenter ses héros, parce que c'est bon, on les connaît.
Enfin.
Et ça faisait longtemps qu'on l'attendait déjà, ça. Ouais. Et donc en fait, le personnage principal du film, c'est le méchant Thanos, qui va faire en fait le lien entre les différents personnages et les différents univers. Sachant que voilà, le but du film est que les héros doivent s'unir pour stopper Thanos, pour l'empêcher de récupérer ses 5 cailloux magiques, les mettre dans son gant de la mort dans l'infini, le machin qui tue, pour éviter, parce qu'il compte s'en servir pour tuer la moitié des êtres vivants de la galaxie, non pas la galaxie, de l'univers tout entier, ouais. C'est plus grand.
50%
voilà. Parce que,
parce que il aime bien.
D'accord.
Non en fait,
pourquoi
en fait, dans le film, son raisonnement, c'est dire que... alors, lui vient d'une planète qui a été ravagée par la surpopulation. Et donc, son calcul, c'est dire bah, les ressources dans l'univers, aussi grand soit-il, sont finies. Et il y a beaucoup trop de créatures vivantes pour exploiter ces ressources. Ouais. Et donc, du coup, la solution que lui, il a trouvée, c'est d'en zapper la moitié avec son gant magique qui pourrait écrire à la réalité.
Mais au hasard.
Mais en fait, c'est Malthus, voilà. Quoi.
Alors, en fait, c'est quelque chose entre Malthus et un Américain qui a...
C'est le mâle blanc, si genre...
C'est ça, un Américain qui a regardé des vidéos un peu de l'alt-right, mais qui est libertarien, tu vois. Ouais. En ça, c'est intéressant.
C'est un méchant de droite, quoi.
C'est un vrai méchant de droite libertarien.
Alors, moi j'ai trouvé son raisonnement cool, sauf que deux jours après, je me suis demandé pourquoi il n'utilise pas son gant qui peut modifier la réalité pour augmenter les ressources qu'il y a dans la galaxie,
voilà.
Enfin, dans l'univers.
On a le point d'âme.
On l'avait.
On peut finir.
C'est bon, le point d'âme. Non, mais effectivement.
Mais j'y ai pensé deux jours après, j'ai pas pensé pendant le film.
Voilà. Donc, et déjà, c'est une petite victoire.
T'es un peu occupé par les bruits et par.
Le film dure 2h30 et pourtant, ouais, il s'arrête pas. Il a pas le temps.
Ça m'étonne pas.
Cette blague aussi est un film. Très bien.
Et en fait. 2h30, c'est pas long, enfin, comment vous l'avez vécu du coup?
Non.
Bah, en fait, ça passe très rapidement parce que le film n'a aucun temps de pause, il n'y a pas de temps mort. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un moment où tu pourrais avoir une petite scène pour se reposer ou quoi que ce soit, non, tu changes de séquence et t'enchaînes sur autre chose.
Et c'est la respiration aussi de temps en temps.
Ouais, ouais,
parce que 2h30 d'action, ça peut être très ennuyeux.
Au bout d'un moment, c'est. Et surtout qu'en plus, il y a un côté très. Limite stroboscopique par moment. Mm-hmm. Enfin, moi, c'est ça que c'est l'impression que ça m'a donné, c'est qu'au bout d'un moment, bah, on laisse pas le temps au spectateur de se reposer. Du coup, t'as pas le temps d'emmagasiner tout ce qui se passe.
Et
notamment, genre, il y a des scènes d'action. Alors. J'ai jamais aimé comment ils filmaient les scènes d'action depuis le début. Je les trouve absolument pas terribles pour ça.
De mémoire, c'est assez lisible. Je sais pas ce que ça donne.
Bah, en fait, là, il y a, c'est assis entre deux. Voilà. Enfin, ça se voit à l'écran. À l'écran, ça se voit quand ils sont posés et ils se sont dit alors, comment on va faire cette scène et on va essayer de faire un truc propre. Il y a d'autres moments sur le scénario où ils doivent écrire scène d'action. Et à ce moment-là, bah, clairement, c'est du gros plan avec des trucs qui bougent trop vite. Et t'es là, tu fais je sais pas ce que je regarde. Mais allez-y, continuez, ça vous fait plaisir.
Non. Pour te rejoindre, effectivement, à l'image, c'est cracra. Ça y est, je vais pas en passer 20 plombes dessus. Ça fait 10 ans qu'on le dit. Je vais rien apporter sur le débat. Les dialogues, c'est écrit avec 30 mots de vocabulaire, je pèse mes mots. C'est à peu près le champ lexical des tweets de Trump.
Amazing.
Donc c'est compliqué de s'exprimer, de formuler des pensées complexes, ce qui fait que au final, ce qui se passe dans Infinity War, c'est qu'il y a zéro enjeu. Il y a zéro enjeu. Il n'y a pas un enjeu éthique, ni politique, ni moral, ni quoi que ce soit. Et c'est un bon point. Pourquoi c'est un bon point?
Ils essayent quand même d'empêcher un mec de détruire la moitié de la...
C'est pas un enjeu. Les gentils arrêtent le méchant, c'est pas un enjeu, c'est une structure.
Oui.
Mais c'est pas un enjeu.
C'est un classique.
Exactement. Oui. Et du coup, pourquoi c'est un bon point pour moi? Parce que ils disent moins de conneries. C'est-à-dire qu'en te soustrayant n'importe quoi de morale, eh ben, ils évitent de dire de la merde comme ils font sur Captain America ou comme ils ont fait sur Avengers 2, voire 1. Ce qui fait que bah, ce n'est plus que du divertissement. Et alors, je sais que c'est un raisonnement de nivellement par le bas, c'est pas très malin, mais au moins, ça évite de faire des roll-up pendant la séance et d'être complètement désemparé par rapport à ça. Ça joue sur le fait aussi que... Un des éléments d'intrigue et de structure du film qui est intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, les personnages, on les connaît, ils sont pas présentés, ce qui fait que le spectateur connaît tous les personnages, mais les personnages ne se connaissent pas entre eux. Et donc ça, c'est intéressant parce que il y a des moments où t'as des héros qui se voient et tu dis « Ah bon, bah ils vont se serrer la main et dire bonjour, comment ça va ?» Et en fait, ils se tapent sur la gueule. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a pas ce côté, c'est pas non plus annulé par une espèce de vanne à la Marvel, genre on se tape mais c'est pour de faux, en vrai on sait qu'on est des gentils. Ils se tapent vraiment sur la gueule sans se parler, et c'est un bout d'un moment quand...
Pourquoi ils se tapent?
Parce qu'ils se connaissent.
Et justement,
quelle est cette mentalité enfin?
Et c'est là
quel est ce film?
Et c'est là que c'est intéressant.
Les super-héros, c'est toujours des bourrins. Les super-héros de base, c'est des gens qui tapent sur des gens dans la rue.
C'est ça. Et c'est là où le film devient intéressant, parce que je sais pas s'il est conscient ou pas, je sais pas si je suranalyse ou pas, donc ce que je vais dire, ça à prendre avec des pincettes, mais il y a pour la première fois dans un Marvel le questionnement du pourquoi on tape. Et il y a des questionnements en règle générale. Et donc je disais que ça, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu depuis le début du film. Et en fait, il y en a un au tout dernier quart. C'est-à-dire que pendant les trois premiers quarts du film, ils se tapent sur la gueule sans raison. Et pendant le dernier quart du film, ils s'arrêtent un petit peu, ils disent mais pourquoi on se tape ? Et ils se rendent compte, pour une fois, il y a une conséquence aux actes. Et je te jure, tu rigoles, mais c'est plaisant. C'est plaisant à voir.
Mais c'est pas un peu sophiste comme raisonnement, parce que pourquoi on tape ? Mais en fait, je comprends pas.
Mais justement, le questionnement, il y a tout un tas de questionnements qui se fait sur les conséquences de leurs actes et sur le fait que pourquoi on tape. Quelle est la différence entre gagner et perdre ? Quelle est la différence entre taper lui ou taper lui ? Et c'est ce qui est proposé dans Infinity War. Je sais pertinemment que Avengers 4 va détricoter tout ce qui a été fait en termes de conséquences sur ce film, mais au moins il y a une espèce de moitié de raisonnement qui est lancé, et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Après, encore une fois, l'image est dégueu et les dialogues sont pétés, mais derrière, et encore une fois, je sais pas si j'invente tout ça ou si c'est vraiment ce qui se passe, mais il y a un sens de la causalité que j'avais jamais vu dans un Marvel récent.
C'est vrai que pour une fois, quand le film se termine, moi c'est la première fois que j'ai vu ça dans un Marvel, le film s'est terminé, les gens étaient silencieux dans la salle. Mmh. Tous les gens étaient sur le cul, genre qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il y a des gens qu'on... Moi je suis allé à la première séance...
Il y a des personnages qui meurent,
donc... On spoilera pas. Il y a certaines choses, en tout cas, il y a des conséquences aux actes.
Et le truc, c'est que par exemple, voilà, pendant tout le film, il y a des gens, à certains moments, quand des héros apparaissaient, voilà... Le personnage apparaît, des gens applaudissent. Bah, bon, ouais. Moi à la fin du film, je sentais qu'il y avait que tout le monde dans la salle était en train de se demander ce qui est en train de se passer, parce qu'ils étaient un peu abasourdis parce qu'ils sont en train de voir. J'ai hésité à lancer un applaudissement, mais bon, c'était un petit peu poussé le troll trop loin. Mais en fait, mais pour une fois, là je me, enfin, en plus voilà, bon, le film va encore battre tous les records et tout. Vu que pour une fois, c'est un film qui aura en effet des conséquences au moins pour les 2-3 prochains films qui vont suivre. Enfin, sauf Ant-Man, parce qu'apparemment il se passe avant, enfin voilà. Ils vont enfin pouvoir commencer à se lâcher, ils vont enfin pouvoir commencer à nous raconter des histoires plus intéressantes.
Vraiment.
Avec des... Bah, je pense, oui.
J'ai raconté ça avec... J'étais avec ma copine quand je suis allé voir le film, je lui ai raconté tout ce que j'ai dit, et elle m'a dit non, parce que ça va être détricoté dans les 5 premières minutes du prochain.
C'est ce que j'allais dire, ouais.
Et donc,
sans l'avoir vu.
J'ai l'impression que je me suis mis dans ce film une espèce de parenthèse magique où c'est comme s'il n'y avait jamais eu de film Marvel avant et comme s'il n'y en avait jamais après, et tout seul, bah, il se tiendrait presque debout.
Mais si je lis un peu entre les lignes de ce que vous dites, c'est que peut-être il y a peut-être des disparitions de personnages. Moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que le Marvel Universe va pas suivre directement la voie ouverte par Game of Thrones et par plein d'autres séries maintenant, qui est celle de je te construis des personnages pour les détruire, et qui devient un format en fait complètement basique et complètement à la mode, et qui moi m'exaspère un peu en fait.
Bah en fait il y a deux facteurs quand même pour les films Marvel. Il y a d'une part bah voilà les besoins de scénario, et d'autre part il y a aussi les acteurs en fait. Parce qu'il y en a certains, genre Robert Downey Jr., ça fait 10 ans qu'il fait Iron Man, il va peut-être vouloir raccrocher au bout d'un moment, donc ce serait pas étonnant que des personnages comme Iron Man ou Captain America, d'ailleurs Captain America a annoncé qu'il voulait arrêter après un Avengers 4, ça vous laisse des pistes, que voilà, il y a des personnages qui vont certainement mourir, ou il y a des d'autres personnes vont peut-être récupérer les costumes, ça c'est beaucoup fait dans les comics, je vois pas pourquoi ils le feraient pas au cinéma.
C'est ce qui arrive tout le temps dans les feuilletons télé, ils reprennent exactement les mêmes... Les mêmes codes que les feuilletons où t'as un mec dont le contrat est fini, genre dans Urgence, le mec qui son contrat est fini, bah il meurt. Plus ou moins salement selon comment sont passés la rupture du contrat.
Des Marvel, ça fait 10 ans qu'il y en a, il y en a 2 par an. Est-ce qu'on serait pas, au lieu de dire le, je sais pas, 32e film Marvel, est-ce qu'on serait pas à saison 3, épisode 24 quoi.
Si, bah, ils reprennent vraiment les codes avec les cliffhangers.
En tout cas, je trouve que là, on est en fin de saison.
Cette fin de saison est plutôt intéressante si on doit parler comme ça.
Effectivement, je rejoins Florent sur l'idée du ça reprend les codes de la série, et des choses comme ça peuvent arriver. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça tende vers le côté Game of Thrones de en fait ils ont fait leur nom sur cette méthode là c'est-à-dire que moi qui ne regarde pas Game of Thrones, je sais très bien que les personnages principaux meurent à tel épisode quoi.
Effectivement, je me suis construit un avis positif sur le film, je sais très bien il est ultra branlant, et je pense que quelqu'un qui me démontre par A plus B voire par A tout court que c'est fallacieux ce que je raconte, bah ok, y a pas de souci, je vais pas me battre pour ce film. Et Maxime, j'entends bien ce que tu dis, et si tu craint qu'un effet de mode se transforme en industrialisation au sein de, du cinéma américain. Oui, c'est fortement probable.
Ça me dit quelque chose. J'ai l'impression qu'on a déjà vécu ça.
Je pense, oui, depuis la nuit des temps. En tout cas, en tout cas avec si on met des parenthèses magiques autour de ce film, bah, il se tient. C'est ma fin à moi.
Für Frieden und Völkerfreundschaft. Seid bereit. Auf die Freiheit.
Gestern Nacht mussten die aufständischen Ungarn in ihrem Kampf um Freiheit tragische Verluste hinnehmen.
Hört mal alle. Wir machen eine Schweigeminute in Angedenken der gefallenen ungarischen Genossen.
Spinnst du jetzt völlig kurz?
Ich will wissen, was hier gespielt wird.
Was ist hier los?
La Révolution silencieuse est un film allemand qui est réalisé par Lars Krom. C'est avec Leonard Schleicher, Tom Garmans, Lena Klenke et Isaiah Michalski. Certains d'entre eux, vous avez vu dans la série Dark de Netflix. Qu'est-ce qui se passe dans La Révolution silencieuse? Ça se passe en 1956, pas loin de Berlin-Est, donc dans la RDA, sous occupation coco. Voilà, sous mentalité coco. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des étudiants qui apprennent que des Hongrois se font tuer pendant qu'ils vont, juste avant qu'ils passent leur bac, par des militaires soviétiques qui occupent la Hongrie, et donc ils décident de faire une minute de silence pour protester. Et cette minute de silence va prendre des proportions régionales, voire quasi nationales, et ça va transformer la vie de ces étudiants dans un espèce de drame social, politique et historique. Alors déjà, le premier point négatif, c'est que je me suis fait chier. Alors je m'étais promis de pas le dire, j'ai tenu 20 secondes, je m'étais vraiment promis, c'est pas une vanne, mais j'ai une bonne résistance d'habitude à tout ce qui est ennui, enfin je trouve pas, quand les gens me disent « Ah, je me suis ennuyé devant un film », ça me touche relativement peu, là c'est très compliqué, pour tout un tas de raisons. Déjà je trouve ça ultra maladroit que pour un film historique, on limite la narration, l'intrigue et le propos au simple personnage des étudiants, c'est-à-dire qu'on parle très peu de l'occupation, on parle très peu de la relation entre les différentes Allemagnes, on parle très peu de la relation entre Allemagne et Hongrie, on parle très peu de confraternité.
C'est pas pour une question de moyens financiers, et en termes de cadre spatial, pareil, ça se cantonne.
Ça se cantonne sur une salle de classe, un bout de campagne qui ressemble à n'importe quel autre bout de campagne d'Europe, et les chambres de quelques étudiants.
Mais au final, moi je trouve que c'est plutôt un point positif de voir juste leur point de vue et pas avoir une ribambelle de poncifs sur le sujet qu'on connaît déjà, sur la situation politique à cette époque, etc.
Sauf que les poncifs politiques, tu les remplaces par des poncifs individuels. En fait, tous les personnages, ce qu'il veut essayer de créer le réalisateur avec ce film, c'est un espèce de cercle des poètes disparus dans un contexte politique lourd.
Et
là où le cercle des poètes disparus, ça marche un petit peu, c'est qu'il y avait un prof un peu charismatique déjà, chose qu'on n'a pas du tout, il n'y a pas cette image du prof, le prof est limite un peu collabo avec le c'est une espèce de, en fait c'est les ministres, le ministère de la RDA qui va essayer de les faire taire parce qu'ils ont juste fait une minute de silence. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils ne se battent pas, ils font juste une minute de silence sur laquelle beaucoup ont des doutes, et tout est mou en fait, tout est très tendre, tout est très tiède, et Les étudiants n'ont même pas de charisme en eux, ils portent rien, parce qu'en fait ils sont juste là pour exprimer chacun, et c'est un des espèces d'enjeux qui se répètent en plus, qui est très répétitif dans le film. Chacun des étudiants devient un espèce d'enjeu par rapport au souvenir de leur père. C'est-à-dire que s'il y a un étudiant par exemple où le père était un collabo nazi pendant la guerre, et il va essayer de se racheter. Il y a un étudiant dont le père est un héros de guerre qui a contribué au recul des nazis, etc. Et ben lui, il va falloir qu'il fasse honneur à son père. Et du coup, à chaque fois, c'est par rapport aux parents, par rapport à la cellule familiale. Et c'est pas très intéressant. Je passe sur l'image et la mise en scène. J'aurais pas grand chose à en dire parce que c'est très faible. En tout cas, sur une salle de ciné, ça rend pas vraiment bien. L'étalonnage est à chier sur une séquence sur deux. Le montage est très abrupt. Et il est pas abrupt pour une espèce de dilemme de morale ou pour une violence sociétale. Il est juste abrupt parce que ça s'enchaîne de manière un petit peu carrée. Enfin, tout est carré dans ce film. Et c'est difficile de ressentir une quelconque émotion face à... Enfin, il y a rien qui. Alors, j'attends pas qu'il pose.
C'est allemand, quoi, carré.
Ouais, froid, c'est ça. Il y a rien. Oui, c'est comme un film froid pour les films scandinaves. Ça.
Mais donc, de mémoire, c'est le. Enfin, sans avoir vu La Révolution silencieuse, c'est le réalisateur qui avait fait un biopic sur un avocat juif qui cherchait à poursuivre des nazis qui s'étaient enfuis, notamment en Amérique latine, c'est-à-dire Fritz Bauer. Et en fait, d'après ce que tu nous dis, Robin, c'est. Enfin, il s'inscrit complètement dans cette tendance qu'il y a à l'heure actuelle en Allemagne de faire un cinéma sur l'expiation des fautes allemandes.
C'est ça.
C'est, donc voilà, tout se situe au niveau juste au niveau de la Deuxième Guerre mondiale ou dans l'après, avec des gens qui sans cesse cherchent à racheter les fautes de leurs ancêtres, des parents. Etc.
C'est ça, et donc en plus là c'est par une génération d'écart, donc c'est pas très direct, et c'est un peu compliqué parce que le film te fait miroiter un enjeu soit européen, soit un enjeu d'étudiant, une flamme d'étudiante qui part complètement sur quelque chose qui est très libéral au final. Le ministre de l'éducation de la RDA qui vient poursuivre lui-même les étudiants parce qu'il est méchant, parce qu'il est, il dit moi je suis communiste, et du coup il y a une espèce de figure de vieux résistant qui nous fait souffler la flamme du libre arbitre. C'est très gentil, c'est extrêmement gentil, et c'est difficile de pas s'ennuyer fermement à partir du moment où de toute façon, c'est des gentils étudiants qui vont se faire pardonner leurs fautes à la fin, soit par leurs parents, soit par le système. Il se passe pas grand chose, très honnêtement. C'est vraiment La Révolution silencieuse, c'est vraiment pas quelque chose.
Dommage, parce que moi j'avais envie d'y aller. Et l'affiche est plutôt.
L'affiche est plutôt sympa, mais. Alors peut-être que j'ai peut-être passé à côté d'un sujet du film, mais ça m'étonnerait la mise en scène est tellement directe que s'il veut pas nous faire dire ça, il ferait pas
alors
dire
le,
grand chose.
Alors donc pour résumer l'histoire, c'est qu'on essaye de faire taire des gens qui font une minute de silence.
Voilà.
D'accord.
Ouais. Mais c'est présenté comme ça, c'est rigolo.
C'est ce qui semblait rigolo sur le sujet d'ailleurs.
C'est rien de drôle. Hein. Je vous dis, il y a
pas
vraiment de
rigolo, mais ce qui semblait intéressant pour le réalisateur de se saisir de cette histoire-là pour en faire un film, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant et.
C'est pas raté. C'est raté. C'est raté. J'en bafouille. Une femme heureuse, c'est un film réalisé et écrit par Dominique Savage. C'est avec Gemma Arterton, Dominique Cooper, Frances Barber et Mark Keller. Ça finit, ça rime. Ça rime, sauf un. Julie, une femme heureuse, mensonge. Mensonge
oui,
publicitaire.
Mensonge, et puis.
Elle n'est pas heureuse. Bon, après, sur l'affiche, elle n'avait pas l'air heureuse.
Non, elle n'a pas l'air heureuse. Elle a l'air de vouloir se tirer une balle. Et en fait, c'est ce qui se passe pendant tout le film. C'est-à-dire que.
Ralenti.
Oui, le titre anglais, c'est The Escape, donc littéralement l'échappée. Et en fait, ce titre-là explique beaucoup plus l'histoire en elle-même qu'une femme heureuse. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Tara, donc une jeune femme au foyer, qui est au début de la trentaine, qui est mariée. Et qui a deux enfants, elle est mariée avec un gros connard. C'est-à-dire que le film se sépare en trois temps. La première heure, donc, c'est une espèce de routine qui est installée où elle doit faire toutes les tâches du foyer, les courses, le ménage, s'occuper des enfants. Son mari ne fait rien, il travaille. En plus, il oblige à avoir des rapports sexuels, donc c'est du viol conjugal.
Jusque-là, je vois pas de soucis.
c'est un petit peu redondant, mais bon, pourquoi pas. Donc la seconde partie, elle s'en va, elle s'échappe, elle vient à Paris. Donc là, c'est complètement idyllique et caricatural. Alors, c'est le Paris des amoureux, c'est la Seine, c'est le Louvre. Enfin, tous les clichés sur Paris sont alignés.
Donc, il y a des fleuristes dans toutes les rues.
Mais presque, il y a les bouquinistes, il y a tout. Et donc, ce môme de l'originalité, elle va avoir la dame à la licorne au musée du Moyen-Âge Cluny-la-Sorbonne. Mm-hmm. Elle tombe sur un photographe parisien qui parle très mal anglais, donc incarné par Jalil Lasper. Il y a une petite histoire entre les deux. En fait, je peux le spoiler parce que ça n'a pas tant que ça d'intérêt.
Ça a pas l'air.
Donc, pour finir rapidement, les deux, ils s'amourachent un peu. Et puis, en fait, chacun a une histoire de son côté. Donc, ils se rendent compte qu'ils se sont mutuellement trahis. Donc, ils se séparent parce qu'ils sont dégoûtés. Et puis, à la fin, on a un propos que moi, j'ai trouvé absolument moralisant et complètement complaisant. Sur une vieille dame qui recueille donc Tara, qui lui dit qu'en fait elle doit pardonner à son mari et rentrer chez elle.
D'accord.
Et à rentrer chez elle.
Après une somme de clichés, mais en fait, on arrive
c'est
sur cette morale.
C'est-à-dire que moi, je veux bien, et c'est pour ça que ce film m'a pas mal, il m'a pas mal heurté, parce que, enfin, c'est quoi le message qu'on renvoie à une femme au foyer qui voit ce film? On lui dit, enfin, ma cocotte, on t'oblige à avoir des rapports sexuels, mais en fait, il faut que tu rentres chez toi parce que t'as tes enfants et un mari à t'occuper. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, moi, ça m'a choqué.
Ça m'a l'air complètement, enfin. Paradoxal comme sujet.
Eh bien, en fait, disons que...
Pourquoi faire ce trajet? Pourquoi faire ce voyage?
Voilà,
pourquoi faire ce film?
De mon point de vue, de deux choses l'une. Ou on montre initialement un couple et on montre qu'il y a une zone grise en montrant un mari, bon, qui est peut-être pas parfait, mais qui a certains apports et pas seulement le salaire
financier.
Tous les mois. Non, mais oui, voilà, exactement. Et à ce moment-là, le pardon se justifie, c'est-à-dire qu'on peut le justifier par la subjectivité du personnage principal qui ensuite, bon, rentre dans le rang et qui se dit qu'il y a des pour et des contre. Là, oui, ça tient, mais pourquoi montrer un homme à ce point-là caricatural? C'est-à-dire qu'il y a toutes les tares, enfin, les pires tares qu'on peut voir chez un homme qui manque de virilité, qui n'est pas capable de s'occuper de ses enfants, qui insulte sa femme devant eux. Pour ensuite venir filmer une embrassade entre les deux qui est immonde et les rabibocher ensemble.
À l'image, ça va être complètement sirupeux, du coup.
C'est-à-dire que il faut pas être dans un état de mélancolie profonde pour voir ce film. Ça donne envie de se tirer une balle. C'est-à-dire qu'on sort de là.
Surtout vu la fin. Il n'y a aucune émancipation dans ce film possible?
Non, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que le titre français m'a beaucoup choqué, parce que parler d'une femme heureuse, je me suis dit, bon, le cynisme...
C'est quoi qui était cherché par ce titre? C'est une espèce d'ironie?
Et c'est ça que je me suis dit, c'est une espèce d'ironie peut-être un peu douce-amère, mais c'est maladroit. En fait, ce qui est maladroit, c'est vraiment ce que montre le film. Enfin, on ne peut pas traiter le viol conjugal en disant, ben oui, on fait une croix dessus et puis on revient ensemble. Non, c'est Dominique. Enfin, je ne sais pas, Dominique. Un prénom mixte. Je ne suis pas sûr, je ne connais pas
Dominique
le ou
Savage.
La. J'ai très peur.
Non, c'est un réalisateur britannique.
Bah, bravo Dominique.
Voilà.
Donc voilà, après moi je l'ai perçu comme ça, j'en ai discuté avec d'autres
beaucoup
personnes qui
télé.
L'ont pas vu de la même façon, mais je suis pas d'accord. Et là où par contre, quelque part, c'est le seul point positif du film, c'est que l'interprétation de Gemma Arterton est vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire elle est très crédible en femme de la classe moyenne qui...
Même sur l'affiche, moi, j'ai vu
elle
sa tête.
Elle est très, très peu maquillée. Ouais. Elle est excellente.
Je trouve que l'affiche, c'est un gros plan sur son visage. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mm-hmm. Un gros plan sur son visage. Et on voit son air à la fois un peu apeuré. En fait, c'est un peu ça. Mm-hmm. Elle est un peu apeurée, un peu triste en même temps. Ouais. Bah, ça... Enfin, je trouve que c'est assez poignant.
De toute façon, après, on espère que Arterton va... Elle était sur le chemin de changer un petit peu, parce qu'elle a fait beaucoup de blockbusters, comme ça qu'elle s'est fait connaître un petit peu.
Oui, et là, on voit la prise de risque.
Hansel et Gretel, elle avait fait Prince of Persia, elle avait fait... Voilà, c'était pas des
Enfin, elle a fait pas des
films titans.
Français aussi qui étaient pas très, très connus.
C'est ça, mais elle a beaucoup...
Quelques petits films anglais aussi.
Oui,
elle a un peu tout fait, en fait.
Voilà, un petit peu. Bah, elle était... Moi, j'avais bien aimé dans The Voices, par exemple. C'était Je trouvais ça intéressant. En tout cas... C'était le point positif du film, malheureusement c'était le seul.
Effectivement.
On enchaîne du coq à l'âne complètement avec Action Vérité. C'est un film, dois-je citer le réalisateur, je ne sais pas, de Jeff Wadlow. C'est avec Lucy Hale, Taylor Posey et Violet Bean. Tout ça des noms qui donnent envie d'aller au Spring Break. C'est exactement le sujet du film. Ce sont un groupe d'amis qui part en Spring Break, qui arrivent donc dans une espèce de temple, parce qu'ils sont pas loin du Mexique. Qui arrive dans une espèce de temple en ruine à moitié hanté, dans lequel ils jouent à Action ou Vérité, sauf que cette Action ou Vérité va se prolonger dans leur vie quotidienne, et s'ils ne font pas ni Action ni Vérité, ils meurent.
Le film en québécois est Vérité ou Conséquence.
Ah.
Voilà. Je le dis juste parce que
c'est
ça
un
m'a
peu
fait
plus
marrer
sérieux.
Tout seul.
Mais tu vois, Action ou Vérité, c'est vrai que c'est nul, mais Vérité ou
Conséquence.
C'est
la traduction québécoise d'Action ou Vérité. Donc,
d'accord.
Vérité ou Conséquence.
Et bah voilà, le conséquence ici, c'est la mort. Alors, de quoi on est en droit de s'attendre avec un tel pitch?
Avec des gens qui meurent par père et par ribambelle.
Exactement, par ribambelle. Alors, pas trop vite parce qu'ils sont 7. Donc, il y a quand même une bonne heure 40.
Ça dure
rien. Parce que Action et Vérité, voilà, ça fait 1h40. Non, il se passe pas grand-chose. Ce qu'on peut espérer, parce qu'on est des gens très malsains, c'est une espèce de destination finale, vous savez, où on voit des jeunes mourir parce qu'ils sont bêtes, de manière très violente, et ça expie un petit peu le fait qu'on n'a jamais fait de Spring Break et qu'on est très jaloux. Il se passe même pas. Là, c'est juste des gens qui glissent et qui se... Ils tapent leur tête, voilà, il est mort, il monte son sgeg sur une table de billard, il glisse, il meurt. Bon, il se passe pas grand-chose, et... tout ce que je dirais sur ce film, c'est que bon, il y a pas mal de moments de roll-up, c'est pas malsain comme d'autres films d'horreur.
Et
de
c'est
genre.
Drôle au moins ou pas?
Non,
tant
bah
que
non.
Ça. Ah bah non, en plus.
T'espères bon. Que ça soit un peu drôle, t'espères que ça soit un petit peu. Il y a une espèce de début, un moment d'amorce de. Parce qu'en fait, quand il y a action et vérité, le temps s'arrête et il y a une espèce d'affreuse grimace sur la tête des gens, de tout le monde qui t'entoure, pour te forcer à faire le truc. Et donc, il y a une espèce de proto-tentative de propos sur la pression sociale qui tombe à l'eau.
Qui est très américain, même en soi.
Oui, voilà. Mais ça pouvait être intéressant, mais en fait, ça tombe à l'eau au profit d'une espèce de.
Le film, il s'intéresse pas à ça.
Au profit d'un triangle amoureux quelconque. Voilà. Avec, et à la fin, évidemment, le monde est infecté et puis, et puis plouf. Non, c'est très. Je vais pas être décevant, mais il y a
Donc, Jeff Wadlow, c'est le mec qui avait fait Kick-Ass 2.
Dag, c'est le réalisateur de Kick-Ass 2.
Qui était nul déjà.
Bah oui, qui était. C'était.
Le mec est constant après.
Ah, c'est bien d'être horizontal dans sa filmographie. En tout cas, Action Vérité, pas grand chose à dire. Si ce n'est que j'avais l'habitude sur les films d'horreur comme ça d'y aller sans me renseigner, vraiment, sans rien regarder du film. Je pense que la prochaine fois, je checkerai un petit peu quand même. Je ferai pas deux fois la même erreur. On reste aux États-Unis. On va aller du côté d'un truc qui hurle, d'un truc avec des poils, et puis d'un truc qui hurle et d'un truc sans poils. C'est Rampage avec The Rock.
It's weird. You like hang out with animals more than people.
Yeah, well, animals get me. I rescued George when he was 2 years old. George never would have survived on his own.
He definitely trusts you.
Last night, George was 7 feet and he weighed 500 pounds. George, you okay, buddy? You're scared. It's okay. This morning, he's 9 feet pushing 1,000. What's happening to my friend?
Are you familiar with genetic editing? Changes will be incredibly unpredictable.
Is he the only one?
Oh, you didn't know about the 30-foot wolf?
Rampage, 2 points, hors de contrôle. C'est comme ça que c'est titré en français. C'est un film de Brad Payton, ça te dira connaisseur.
San Andreas, qui était déjà nul.
Et ben, il y avait déjà The Rock avec la même chemise. Donc Dwayne Johnson, Naomi Harris, qu'est-ce qu'il fout là? Jeffrey Dean Morgan, qu'est-ce qu'il fout là? Bon, je vais pas dire ça, parce qu'à chaque fois je vais le dire, qu'est-ce qu'il fout là? Un casting, des bêtes numériques, quelque chose qui s'approche du jeu vidéo, et là, deuxième coup de tonnerre après Infinity War, ça a plu, en tout cas ça a plu à Nam. Rampage, ouais. Exactement, mais non, mais on te juge pas, on est là, on a tous notre jeton.
Moi je juge, mais je le dis pas trop fort.
Peut-être que t'as raison, peut-être que t'as tort, défends-toi Nam.
Alors déjà je vais commencer par vous dire de quoi que ça cause.
De quoi que ça cause?
En fait le film commence dans une station spatiale en orbite de la Terre, alors qu'elle est en train de chuter vers l'atmosphère. Il y a des flammes, des personnages en gravité zéro.
Tout de suite.
De l'action directement. De l'action directement. Et il y a une.
Hors de contrôle.
Oui, c'est. Non, mais ça. Bah oui, il faut bien commencer quelque part. Autant commencer directement par l'événement qui va faire le film. Qui est donc, voilà, cette chute de station spatiale et 3 échantillons d'un produit de science génétique, mutation, tout ça. Qui tombe aux États-Unis.
Vert qui fait des fumées.
C'est un truc vert qui fait de la fumée.
Oui, c'est souvent vert.
Ouais, c'est vert.
Ouais, c'est toujours vert.
Violet, vert.
Ouais. Ça inspire pas confiance, c'est pour ça. qui donc tombe aux États-Unis et il y a 3 animaux qui sont infectés. Un loup, un crocodile et un gorille albinos du zoo de San Diego.
D'accord.
Parce qu'il fallait trouver un gorille. Hein. Non, c'est vraiment pas de bol.
Pile là où était Dwayne Johnson après son dernier tournage, dis donc. C'est marrant.
Et malheureusement pour les PDG de la grande méchante compagnie qui veut se faire du pognon, le primatologue chargé du gorille albinos avec qui il parle en langage des signes, c'est Dwayne Johnson, voilà, primatologue et ancien membre, ouais, primatologue et ancien militaire parce que forcément,
oui,
voilà,
la carrure, voilà, tout ça.
Il n'était pas comptable, hein. Ça se voit quand même.
Et donc voilà, les créatures deviennent plus grosses, plus agressives, ont des mutations bizarres, rigolotes, forcément très agressives parce que sinon c'est pas rigolo. Et donc on a tout un build-up jusqu'à une grande destruction dans la ville de Chicago où les créatures et l'armée se mettent sur la tronche. Mm-hmm. et étrangement, le film est bien fait.
Alors c'est vachement influent jeu vidéo.
Et ben en fait, alors c'est tiré d'un jeu vidéo
tout à fait, que vous n'avez pas connu. Hein, mais,
c'est ça. Et en fait,
Atari 520 ST.
Et en fait, j'ai découvert que le film était tiré d'un jeu vidéo dans le générique de fin. Ce qui, pour une adaptation de jeu vidéo, est un bon point. Parce que si je ne me suis pas posé la question avant.
Quel est ce jeu ?
Bah, s'appelle Rampage. C'est un monstre de. Je crois que c'est un jeu de. Tu incarnes un gros monstre sur bande d'arcade. Où tu dois survivre dans une ville avec l'armée qui tombe dessus et certains d'autres monstres.
Mais en vrai, surtout qu'on devait détruire des immeubles déjà. D'accord. Le but c'était de.
Voilà.
Enfin, personnellement, j'ai vu l'affiche avec un singe, j'ai cru que c'était une histoire parallèle à la planète des singes. J'ai pas compris. Je viens de comprendre il y a 10 minutes que c'est issu d'un jeu vidéo. Oui. Voilà.
Bah, moi, à la base, je pensais que ça allait être un film du. Je sais plus comment c'était
le. Ah, les
le Monsterverse, ouais.
Ouais, de l'univers.
Avec Godzilla et.
C'est Halo, ça. Hein.
Non bah voilà, le film était cool, il fait bien ce qu'il propose, et voilà.
Est-ce que c'est pas un peu dangereux de Dwayne Johnson qui a quand même, je le dis ça avec toute la sincérité du monde, il a quand même un joli potentiel dans différents registres, et là il est en train de s'enfermer dans le badass à chemise.
Un peu rigolo quand même.
Un peu rigolo quand même, mais il avait un deuxième, troisième, quatrième degré qu'il exploite plus du tout, et c'est un peu dommage.
Bah oui.
Oui. Ok, ok.
Il incarne à fond le cinéma beauf qui avait été bien repris par Michael Bay là, dans No Pain No Gain.
Ouais, mais je trouvais ça super intéressant.
Qui d'ailleurs, Michael Bay incarne bien le cinéma beauf aussi, mais là il y avait eu un moment où tout le monde avait réussi à briller.
Il y a un miracle, pour moi il y a eu un miracle sur ce film où t'as des acteurs qui sont très premier degré, des réalisateurs, des techniciens qui sont très premier degré, qui ont tous d'un coup regardé ce qu'ils faisaient. Et proposer un regard, enfin j'ai trouvé ça.
Tu parles de No Pain No Gain, dans le contexte.
La Rampage, bah écoute, si ça t'a fait un bon petit shot de divertissement costaud, pourquoi pas ? Pourquoi pas après tout ? On va enchaîner un autre shot. Je ne sais pas où va cette transition, donc je vais l'arrêter tout de suite. Ça va être ton tour.
Tout à l'heure j'attendais, mais là, autant je voyais la transition tous les films d'avant, autant sur celle-ci. Il n'y avait aucune transition possible.
De toute façon, je ne vais pas faire une transition graveleuse parce que c'est trop facile. Donc je vais te lancer cash.
Ça marche.
On va enchaîner avec MILF, c'est un film d'Axel Lafont avec Virginie Ledoyen, Marie-Josée Croze et Axel Lafont elle-même. C'est une comédie évidemment puisque l'affiche est vaguement en jaune. Laurent, tu l'as vu parce que t'es arrivé trop tard sur La Révolution Silencieuse.
Bah, c'est ce que je voulais aller voir, oui, parce que t'avais pensé du mal, donc je voulais pouvoir essayer de te tacler.
T'as raison.
Sur les 6 mètres. Et en fait, non, je suis allé voir un autre film, sûrement aussi pourri que le tien. Si ce n'est plus. Bon, enfin bref, on va pas faire un concours de beats parce que c'est justement le sujet du film.
D'accord.
Les beats. Oui, c'est un film très 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 obscène, comme vous pourrez vous en douter. Axel Lafont, qui est assez libéré.
Mais parce que Axel Lafont, ça a toujours été connu pour être très open.
Voilà. Miss Canal Plus, ça aide. Pour...
Voilà. J'espérais qu'il y ait quelque chose qui viennent d'elle, tu vois, un second, comme il y avait eu sur la comédie de Fabrice Eboué, où
oui,
on s'attendait à rien,
mais,
et au final.
Mais en fait, déjà, c'est tellement pour les, enfin, c'est tellement un film tourné par des femmes de 40 ans qui ont des problèmes de femmes de 40 ans et qui expriment leur enfin ces problèmes si qui peuvent pas du tout me toucher étant un jeune homme de 25 ans. Forcément, je suis assez loin de leur situation. Même si je pourrais me retrouver peut-être de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire des mecs qui cherchent à se faire. Mais en tout cas, ça m'a absolument pas touché. J'ai pas compris ce qu'elle voulait faire parce que il y a une sorte de mal-être qu'elle essaye de présenter sur ces femmes qui ont perdu leur mari parce qu'ils sont décédés ou parce qu'ils l'ont quitté ou voilà les problèmes familiaux qui peuvent arriver à cet âge-là. Et en fait, ça l'exploite pas du tout. C'est vraiment que le côté, enfin, c'est surtout le côté obscène qui est mis en scène. Et ça rend la chose assez difficile à absorber et des moments très 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 gênants en salle. Ça va qu'il y avait peu de monde, mais s'il y a vraiment des scènes...
C'est des gags de fion premier degré.
Il y a une scène de zizicoptère.
De zizicoptère. Ah ouais.
Ah voilà, je savais pas si tu le disais sérieusement, mais oui voilà, elle demande à un mec, est-ce que tu peux faire l'hélicoptère avec ta bite? Il dit yes master, et il le fait. Voilà, et
la
donc...
La vanne s'arrête là.
Non, on voit vraiment sa bite.
Oui, mais je veux dire, il fait un hélicoptère et voilà.
Ah ouais, bah après il baise, voilà, mais bon, bref, voilà. Assez compliqué de rebondir là-dessus, sauf que c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en fait, on perçoit son second degré, parfois, mais on se rend compte qu'en fait, elle est incapable de le mettre en scène, en fait.
Ouais, c'est elle qui réalise, genre.
Voilà. Et des fois, il y a des scènes, notamment toute première scène, où, bref, c'est trois femmes qui vont dans le sud pour voir leur baraque, bref, elles prennent l'autoroute. Et bon, bref, elles disent qu'elles vont s'amuser. Il y a Axel Lafont qui dit ah quoi, tu vas voir, on va se marrer. Là, il y a une voiture qui va les doubler. Au moment où la voiture les double, bah, elle décide de montrer ses soutifs à la fenêtre à la voiture qui les double. Et là, je fais putain, ça va être vraiment lourd comme ça tout le film. Et là, en fait, c'est des flics et c'est la BAC. Et j'avoue que ça m'a fait un peu marrer. Et, sauf que la façon dont c'est mis en scène, c'est le potentiel humoristique de la blague est pas utilisé à son maximum. Et très souvent, comme ça, on voit le truc un peu gras. Elle désamorce le truc, ça pourrait être drôle, mais ça l'est pas suffisamment. Ouais. Du coup, on reperçoit un peu les tentatives, mais c'est encore trop juste d'un point de vue cinéma pour nous faire marrer. Et du coup, il y a que le côté obscène, moi, qui est resté. Et du coup, c'est un peu dommage parce que il y a deux trois idées, deux trois trucs qu'elle aurait pu mieux exploiter. Quoi.
Dommage. On va enchaîner avec un film réalisé par Yann Le Kellec, c'est Cornelius, le meunier hurlant. Je voulais bien être sûr de bien le dire, de pas bafouiller. C'est avec Bonaventure Gasson, Anaïs de Moustier, Gustave Carverne. Vous y êtes allés à deux, Laurent encore, et Maxime. Maxime, tu as des yeux fatigués déjà. Alors, avant même de parler de ce film.
Oui, peut-être. Non, effectivement, un film que je classerais dans la catégorie des films décevants parce que les premières minutes du film laissent croire à un potentiel assez intéressant, c'est-à-dire qu'on est quand même mis face à un personnage assez loufoque, ce personnage de meunier qui débarque dans un village où tout le monde a l'air sorti tout droit d'une bande dessinée. Et il y a quelque chose qui s'installe dans les premières minutes qui nous laisse croire à un film qui peut tendre vers quelque chose d'un peu déjanté, d'un peu hors des codes. Et en fait, très vite, cette histoire de ce nouveau meunier dans la ville dont le majeur souci est de hurler la nuit pour essayer de se détendre et de se soulager, en fait, c'est une sorte de maladie qu'il a, c'est de hurler la nuit. Ce qui donc
il hurle très mal. Hein.
Il hurle très mal.
Il fait très mal le faux loup-garou, en fait.
Mais ce qui crée donc des désagréments dans le village. Est-ce que c'est un film qui dénonce la pollution sonore? Je ne sais pas. le fait est que c'est quand même ce qui c'est de là dont partent les enjeux du film. Avant de se raccrocher très tardivement à des choses peut-être un peu plus intéressantes, des liens entre les personnages, des choses comme ça, mais ça étire la corde très longtemps sur cette simple action-là.
Et la corde vocale.
Et la corde vocale, et les cordes vocales du spectateur, enfin du personnage. Et on est quand même, malgré son univers loufoque et son potentiel déjanté, se cantonne à une réalisation beaucoup trop classique, c'est-à-dire que finalement, on est face à des personnages de BD et on est un peu collé face à des cases de BD aussi, c'est-à-dire qu'il manque un second souffle à la réalisation.
Parce que le Chabat, en adaptant Mission Cléopâtre, disait l'adaptation d'une BD, c'est tu prends les cases, tu prends les bulles et tu tricotes tout ce qu'il y a autour. Et il a manqué ça, visiblement.
Ouais, c'est ça.
Alors après, attention, c'est pas une adaptation de BD, c'est une adaptation de livre, mais par quelqu'un qui fait aussi de la BD. Donc, mais quand même,
le réalisateur, tu veux dire ?
Oui, le réalisateur est aussi auteur de BD. Donc comme quoi, il y a quand même un lien. Et je pense que lors du visionnage du film avec Maxime, ça nous a fait... Enfin, on a senti ce côté BD, ce côté cartoon dans les personnages, dans l'univers, dans les décors.
Mais pas dans la mise en scène, malheureusement, ce qui fait un peu le lion quand même.
Bah ouais, c'est ça, ce qui est dommage. Après, le film a des qualités, moi je trouve, de par ce côté-là, déjà un peu déjanté, je trouve qu'il y a un beau choix de décor. Laurent est un peu moins d'accord que moi là-dessus, mais il y a des trucs tentés visuellement pas inintéressants. J'avais l'impression en fait qu'on aurait pu en faire un film de Terry Gilliam, sauf qu'il a oublié de passer par là. Et,
d'accord. Bon.
Ouais, un peu décevant.
Juste pour conclure, ça m'a fait beaucoup penser à Malout. Donc si vous avez vu Malout, vous aurez peut-être une idée de l'univers, des personnages, de ce qui est tenté dans ce film-là, qui ressemble beaucoup à ce film précédent sur l'humour aussi un peu décalé, un peu. À côté de la plaque qui arrive.
Malout allait beaucoup plus au bout des choses, j'ai eu l'impression. Même si c'était un film auquel j'avais pas forcément adhéré non plus, j'avais l'impression qu'il allait beaucoup plus dans son cinéma, dans le sens de ses personnages.
Okay. un film visiblement qui n'a pas réussi à faire bouger sa narration par l'image. On va enchaîner avec un film qui a réussi à faire bouger des objets avec sa pensée, c'est Psychokinesis. Psychokinesis, c'est donc un film de Sang-ho Yeon, c'est le réalisateur de Dernier train pour Busan qui avait plutôt plu au moment de sa sortie il y a 2-3 ans. C'est avec Ryu Seong-ryong, Eun Kyung-shim, Jung-min Park et Yumi Jong. Et Psychokinesis, c'est grossièrement de la télékinésie appliquée, comme il y en a eu quelques-uns, des films comme ça, de Chronicle à Push avec Chris Evans, on oublie Push de Chris Evans souvent. Ouais, mais moi j'avais bien aimé, mais après j'ai un gros fait pour la télékinésie, on y reviendra, est-ce que ça a suffi à passer autour de Psychokinésie. C'est un film qui était relativement attendu, il est disponible sur Netflix et non pas au cinéma. Florent, le pitch, je voulais te demander, et puis je crois que tu l'as un petit peu zappé.
En fait, c'est que je l'ai plus tellement en tête. J'ai surtout une sorte de magma d'images et d'intrigue en fait qui symbolise un peu le ce que renvoie le film, c'est-à-dire une sorte de mélange de plein d'intrigues de différents genres, et sauf que rien ne fonctionne vraiment, parce qu'il y a un côté critique sociale sur une méchante entreprise qui détruit des bâtiments ou des gentils coréens, un petit quartier de Corée, notamment un restaurant de poulet frit que gérait l'héroïne du film. Donc cette héroïne a donc un père qu'elle ne voit plus depuis des années, et ce père, lui, il a bu une eau qui a été malencontreusement contaminée par un météorite. Et du coup, suite à ça, il...
C'est vert et scintillant, encore une fois.
Non. Si,
un tout petit peu.
Ah oui, c'est vrai.
Ça scintille,
oui. Oui, elle est scintillante, mais plus rose, je crois.
Ah ouais,
ouais.
Bleu de mémoire. Ouais. Mais je ne sers à rien.
Bah voilà, j'ai bien le film en tête.
Sûr que vous avez vu le même film.
Oui.
Quasiment.
Non, et du coup, bah, lui, il boit ça, et en fait, il a des super pouvoirs, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il peut effectivement contrôler des choses par la pensée. Donc c'est un petit peu similaire au pouvoir des Jedi, c'est-à-dire il dit tiens, bah, ce briquet, bah, je veux, plutôt que de me déplacer, de me lever, bah, je peux l'attraper comme ça. Et puis il apprend même, enfin il se rend compte que plus il développe ses pouvoirs, plus il se rend compte qu'il a des possibilités, donc il se rend compte qu'il peut même voler. Et donc là, bah, on a des scènes d'action complètes. On pouvait s'attendre justement à des scènes d'action un peu plus originales, notamment on a l'habitude que les Coréens se fassent plaisir en termes de mise en scène. Ouais. Et là, visuellement, c'est assez plat en fait, ça manque complètement d'idées. Donc on avait effectivement l'impression de voir le Neo de Matrix, mais tout en marron avec une veste de pêche et qui envoie valdinguer des méchants soldats. Mais tout est fait de la même manière, sans...
Il y a toujours ces archétypes de personnages du film coréen, mais cette fois qui n'ont pas de direction et qui sont là juste pour être là. C'est par exemple, typiquement, Julie, tu as vu encore une fois le flic couillon coréen.
Oui, les policiers incompétents, mais après, j'allais dire de mon côté, bon, c'est clairement pas un chef-d'œuvre, mais disons que c'est tellement un film de guignol que j'ai trouvé ça assez sympa en fait. C'est vraiment guignolesque, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire que le réalisateur, il pousse quand même la bouffonnerie à faire de cette histoire de base, c'est-à-dire du principe de la télékinésie. Un principe qui justifie tout dans la narration. Bah, par exemple, pour se débarrasser de méchants, bah oui, il est télékinésique, alors il suffit de les faire voler. Il est en prison, bah il suffit de défoncer les barreaux, elle a télékinésie. Là, il peut pas prendre les transports en commun parce que sinon sa fille, elle va avoir des soucis, elle va être en danger, bah il vole dans les airs parce que comme ça, il est en 3 secondes. Enfin, tout arrive à être justifié par ce principe et c'est assumé, mais complètement jusqu'au bout.
Moi, le coup du vol dans les airs, c'est ce qui tue le film, parce qu'ils n'ont clairement pas les moyens, ni en termes d'effets visuels, ni en termes de mise en scène, de le mettre en pratique, et on se retrouve avec des grandes scènes qu'il a jamais voulu sacrifier au script, où il vole, où c'est dégueulasse. Mais c'est vraiment dégoûtant, c'est-à-dire que tu vois la soufflerie dans les cheveux, et enfin, ça, c'est complètement antithétique, parce que soit je suis pas exactement d'accord en défendant le film par le côté un peu bouffon, parce que le film essaye d'avoir un propos un petit peu, mais il y a quand même un vrai méchant, hein, il y a un ennemi à battre qui est vaguement, vaguement une entreprise libérale.
Il y a un vague propos de gauche avec le petit commerçant qui se fait envahir par le méchant entrepreneur immobilier chinois. Enfin, je veux dire, ça, c'est...
Mais c'est, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'enjeux qui essayent d'être sérieux pour se prendre complètement, lâcher un petit peu du lest et dire vas-y, on y va. Et
en fait, le film touche à plein de genres, mais
je suis d'accord avec toi.
Le film touche à plein de genres, mais ne réussit aucun des genres en question. En fait, que ce soit le mélo, on s'en fout. La comédie, il y a une scène fois, un peu drôle, voilà.
On vous la dira pas.
Mais le côté fantastique action et manque complètement d'idées. Donc c'est un film qui passe.
En plus, il y a des idées qui sont sous-jacentes, qui sont un peu sous-exploitées. Je pense, par exemple, au fait que. Pour une fois, il n'utilise pas son pouvoir en mettant la main tout droit devant lui et en faisant des petits trucs. Il mime jusqu'au bout ce qu'il fait. C'est-à-dire que si, par exemple, s'il met un croche-patte à un mec, il va vraiment mettre un espèce de croche-patte avec sa jambe. Et ce qui fait que tu as une espèce de décalage. C'est comme une scène de baston où les mecs sont à 15 mètres l'un de l'autre. Et donc, en soi, tu vois, tu te dis, c'est cool, mais c'est, en termes de mise en scène, c'est trop plat pour que ça soit bien exploité. Et c'était clairement une petite déception. Alors c'était une déception pour moi parce que j'avais bien aimé Dernier Train pour Busan. Toi, Florent,
moi, j'ai le même problème.
Ouais, même problème.
Beaucoup de genres, mais aucun qui est vraiment réussi.
C'est con parce que c'est un petit peu la force du cinéma coréen de savoir mélanger, doser les genres. Mademoiselle, par exemple, de Stranger, c'est des formidables exemples pour ça. Et même Oldboy, hein, tout simplement,
Tunnel,
ou Memories of Murder, c'est Tunnel, il faisait ça avec le blockbuster, par exemple. Et là, ce qui faisait la force du cinéma coréen d'habitude, c'est ce qui en fait la faiblesse, et ça donne quelque chose qui est très, très faible. Hein. Moi, c'est l'adjectif que je retiens de ce film, très clairement.
C'est ça.
On va enchaîner et on va terminer sur As You Are, c'est sorti sur e-cinema.com. Je m'y suis collé parce que j'ai proposé tranquillement et tout le monde m'a dit non, film Sundance, moi j'ai pas envie, de toute façon ça va toujours être la même chose. C'est vrai que c'était un peu la même chose. Alors As You Are, qu'est-ce que c'est ? C'est un film de Marjorie Perafit, qui est un nom rigolo, qui sera la première et dernière vanne du film. C'est avec Owen Campbell, qui est présent dans un film que je recommande chaudement sur Netflix, tout petit, parenthèse, c'est Super Dark Times, qui a une prestance très intéressante dans ce film-là et dans As You Are, du coup. Charlie Heaton, que vous avez vu par exemple dans Stranger Things, et Amanda Stenberg, petite nouvelle, je pense, elle a fait de très petits rôles jusque-là. Alors qu'est-ce qui se passe dans As You Are ? C'est un fils et sa maman célibataire, qui, donc la maman a un nouveau copain. Ce copain-là, c'est un quarantenaire, il a un enfant aussi, ils vont devenir un petit peu potes et ils vont devenir un peu les parias et ça va être l'occasion de dérouler toute une esthétique évidemment sundancienne. Donc c'est on pourrait faire des néologismes un peu partout, c'est un peu une sundancerie dans le sens où effectivement c'est ensoleillé, il y a des plans un peu lents, il y a des gigas ralentis partout qui essayent de combler surtout un gros manque dans l'intrigue, dans la mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a peu d'idées, du coup on met des ralentis partout pour que ça fasse joli et une musique ambiante slash électro slash folk. Écoutez, c'est pas on a quelque chose qui est très figé, parce que ce genre d'esthétique, moi en tout cas c'est ce que je pense de ce genre de film un peu Sundance, indé, c'est un peu figé dans le temps, un peu figé dans les lieux, c'est quelque chose, on connaît pas vraiment où ça se passe ce film, mais c'est presque comme si on est habitué des lieux, ça, même si on ne serait-ce que Super Dark Times, pour revenir à celui que j'ai cité, c'est un peu pareil. On a des repères en fait par le genre, mais ça s'exprime de manière un petit peu physique dans l'espèce de banlieue moyenne avec des Américains blancs moyens. Et l'esthétique du film en soi, à l'image, c'est un peu son défaut et sa qualité. Certains diront que c'est vide parce que justement ça reprend les mêmes codes et ça n'y ajoute rien. C'est vrai qu'il y a un gros problème de valeur ajoutée sur ce film. Et puis certains diront que c'est magnifique parce que ils aiment simplement ce genre d'image-là. Et dans les deux cas, c'est pas faux. Dans les deux cas, je peux pas mettre. Il n'y a pas un grand camp qui a tort, un grand camp qui a raison. C'est aussi l'avantage de bien se conformer à un moule, entre guillemets, c'est que c'est pas mal fait, mais ça sort pas non plus vraiment des clous, quoi.
Donc, ça se passe pas dans les années 90.
Ça se passe dans les années 90, ouais, voilà, ouais. Mais c'est ce que je,
dis. C'est nostalgique.
Ouais, aussi. Ouais, mais justement, il y a un côté nostalgique, mais un peu hors du temps. C'est-à-dire que tu mets deux portables quelque part dans le champ et ça se passe en 2018.
Ouais,
ça a pas vraiment grand intérêt. Ce qui se passe, c'est que l'intrigue est un petit peu animée parce que au début du film, on voit tout un tas de les personnages principaux du film qui sont interviewés par la police. Du coup, il y a un drame en fait qui est en point de mire, qui est en point de chute quasiment du film, ce qui fait tenir les petits moments de beauté et les petits moments de mal-être parce que bah, tu sens que ça va péter à un moment. On se doute bien que ça va pas péter très très fort et que ça va être suggéré. Il y a beaucoup de jeux avec le hors-champ dans l'image, il y a beaucoup de jeux. Alors il y a un jeu, il y a quelque chose qui est intéressant et qui est propre au film et c'est le seul moment où le film se distingue et c'est à l'image. C'est qu'il y a de très bonnes gestions de l'espèce d'ancrage dans le sol et de moments plus aériens. C'est-à-dire que des moments où c'est des personnages qui sont dans une Amérique moyenne qui est un peu hors de tout et du coup ils essayent de s'échapper et d'arriver à une vie un peu plus dynamique, on va dire. Et la caméra est vraiment ancrée dans le sol et tu sens cette espèce d'ancrage dans le cadrage et c'est vachement intéressant. Et les rares moments où ils arrivent à rêver pour de vrai, on va dire, d'un coup, tout devient un peu aérien, tout est un peu vu du dessus. Alors encore une fois, on est sur beaucoup de codes du genre, mais ça permet, c'est quand même assez intéressant et c'est, pour le coup, tu sens que c'est le film à ce moment-là, il y a quelques scènes où le film a une identité à lui. Et c'est un peu dommage parce que pendant tout le film, tu cours après ça en fait, tu cours à dire, mais vas-y, prouve que le film est trop bon élève en fait. Prouve que tu sais penser par toi-même et t'échapper un petit peu. Et malheureusement, ça se ressent un tout petit peu à l'image et ça se ressent pas du tout à la structure et à la narration et c'est le gros point faible du film finalement, c'est que en fait il y a peu de drames authentiques, c'est-à-dire que il y a plein d'intrigues, il y a plein d'émotions qui suivent un sentier de narration, de structure narrative et qui suivent pas du tout une empathie envers les personnages et ce qui fait que bah c'est difficile d'avoir des émotions, pour résumer ça un peu bêtement, sur des mécanismes. C'est réduit à avoir cause-conséquence mécanique d'une structure, t'en as évidemment trois dans le film majeur et pas grand chose d'autre, avec le même type de violence, de brisure familiale, avec les mêmes passages dans les écoles, autour des écoles, on fait l'école buissonnière, etc. C'est un peu... C'est trop...
C'est ce film-là, le titre original, c'est pas Come As You Are, donc moi je pensais que c'était une référence à Nirvana.
Alors,
aussi.
Alors, ça se passe, effectivement, ils ont peut-être pas eu les droits, je pensais que c'était juste As You Are, mais effectivement, il y a pas mal de références à Nirvana, à tout ça. Donc c'est pour ça que Nirvana, ils en font pas grand-chose, le film n'en fait pas grand-chose non plus, c'est-à-dire que si t'aimes bien Nirvana, tu vas peut-être adorer le film, si t'aimes pas, mais...
Ils en parlent textuellement, c'est ça?
Ouais, il y a même... Le premier rebondissement du film, le flic justement dans l'espèce d'interview qui est donc anti-chronologique, il dit mais comment tout ça a débuté? Et le gamin répond bah ça a débuté à la mort de Kurt Cobain. Alors que ça a rien à voir dans le film, mais c'est juste que t'as le côté un peu sentimental.
Ça permet aussi de recontextualiser dans l'époque des années 90, même si tu dis qu'au final c'est pas fait très souvent.
Ouais, mais il y a quelques éléments où tu peux pas les rater, mais. Si t'oublies, c'est pas grave. Mais c'est difficile de conseiller ce film parce qu'il est vraiment trop trop sage et dans un genre qui se définit aussi par un petit peu sa sagesse et sa tendresse, d'avoir quelque chose qui est trop tendre et trop sage, c'est de trop et malheureusement ça sera pas la sortie e-cinéma qu'on vous conseillera cette semaine. Il y a des très bonnes choses qui sont restées, notamment La Mémoire Assassine, vous pouvez retrouver My Friend Dahmer, qui était super et ça qui arrivait à se déconstruire de son genre pour avoir son identité, même s'il a des défauts. My Friend Dahmer et La Mémoire Assassine, on en parle dans les dernières émissions, fouillez un petit peu les limites, même si vous trouvez pas directement le bon podcast, au moins découvrirez d'autres films. Récapitulatif des sorties pour voir ce qu'on conseille ou pas, ce qui vaut le déplacement. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un bon film, c'est ce qui vaut le déplacement dans le contexte de tout ce qu'on vient de dire maintenant. Avengers Infinity War, si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est genre le film, voilà, c'est sorti il y a deux semaines au moment où on fait l'émission. Ouais, moi, pour le coup, s'il y a un Marvel à voir, je prends cet angle-là, c'est celui-ci.
Moi, déjà, que tu vas voir, c'est Thor Ragnarok, mais bon, de toute façon, si les gens l'ont pas déjà vu, ils iront certainement pas le voir.
C'est ça.
Ou ils attendront qu'ils sortent.
Une femme heureuse, Julie, tu me l'as très mal vendu.
Oui, et non, on n'allait pas le voir.
Non. Donc, Lean and Pete.
Oui, enfin pour moi c'est la sortie à aller voir sur ces 15 derniers jours.
Psychokinésie, c'est ce qu'on allume Netflix pour ça.
Non, regardez d'autres films sur Netflix.
Bah moi je dis oui, mais allez, parce que je n'aime pas le cinéma coréen d'habitude, donc celui-là je le prends.
Allez, c'est vrai que pourquoi pas. As We Are, c'est un nom malheureusement. Rampage.
Oui. Si vous avez envie de rigoler.
Ouais, pour le coup,
c'est un bon prétexte pour voir un film.
Oui, voilà. L'étiquette pour tout public.
Ça me tenterait presque, en fait.
Doit bien se coller sur le film, quoi.
Bah oui, enfin. Voilà. Ouais. Y a rien à dire, c'était cool.
La Révolution Silencieuse, si le sujet vous intéresse, attendez d'être VOD, au moins partir de son canapé, partir de son salon, c'est moins flagrant que de partir de la salle.
Il y a des gens qui vont bientôt passer leur bac. Est-ce que c'est intéressant si tu passes ton bac?
Non, en plus, bon, bref. Non, je vais pas revenir sur le film. Non, ça
ne. Tu peux faire une petite référence, non, même pas.
Pas du tout, peu importe le bac que tu passes. Cornelius le meunier hurlant.
Non, pas spécialement, et peu importe le bac que tu passes.
Peu importe.
De toute façon, il sera plus à l'affiche au moment du.
Ouais, il est déjà, il est déjà assez peu distribué.
Et alors, MILF.
Non.
Non. Là, ça nous reste pas grand chose, hein. Il reste Psychokinesis si vous aimez pas le cinéma coréen.
Et bah, faut aller voir le prochain coup de Projo.
Voilà, le prochain peut-être. Coup de Projo, peut-être. On va le définir dès maintenant, puisqu'on va s'enchaîner sur le quiz de l'émission. Le jeu de l'émission, c'est parti, le quiz. On va diviser déjà en deux équipes. On va faire Maxime et Laurent d'un côté, Nam, Julie et Florent de l'autre. On va jouer à un jeu qui est inspiré d'une émission qui s'appelle le Tacos Quiz, parce qu'on n'a pas les droits. Donc le Tacos Quiz, je ne sais pas si vous connaissez la somme.
Faudra remonter le nom au début d'émission.
Voilà, il y a la somme, hein, ces fameux jeux où les questions sont un peu bizarres et c'est une question, un jeu de rapidité. Et on gagnera. On gagnera des groumphs. Donc le premier. Il y a 10 questions, celui qui a le plus de groumph a le choix de mettre le coup de projo. On n'a pas les droits et on ne veut pas de problème juridique à moins de 6 mois du lancement de cette émission.
Donc on peut parler de frites.
Non. On ne parle rien. Tu peux parler de pommes frites à la limite.
L'équipe sauce algérienne, voilà. Samouraï. Oh,
on va jouer du coup à cette parodie de la somme. Donc je vais vous donner, c'est des questions de rapidité, sauf dans deux cas où vous aurez chacun 30 secondes, chaque groupe aura 30 secondes pour donner sa réponse et me la donnera. Ok ?
Ça marche.
Alors,
y a-t-il un thème ?
Il n'y a pas de thème, à chaque fois, d'accord. Ça va être des choses un peu différentes. Je vais vous demander, donc question de rapidité, on ne buzz pas, parce que sans quoi ça fait juste des pocs, ça fait juste des pocs en fait. Hein.
D'accord.
Je vais vous demander un film français qui commence par la lettre W.
Il n'y a pas un film français qui s'appelle Wapiti par hasard ?
Wasabi !
Wasabi, bien joué, il cède. Il cède effectivement. Il y avait aussi Wanted, truc avec Jess McAvoy.
Celui avec Renault.
Avec Renault et Johnny Hallyday. Ouais.
Bien joué, bravo.
Un point pour l'équipe de Nam, Julie et Florent, Maxime et Laurent à 0. Il y a 10 questions, on est tranquille pour le moment. C'est pas une question de rapidité, vous allez avoir 20 secondes dans lesquelles je vais meubler, puisque vous allez me donner un prénom d'acteur ou d'actrice partagé par au moins 4 acteurs ou actrices. Je m'explique, vous allez avoir 20 secondes, après vous allez me dire, par exemple, bon bah Gérard, il y a Gérard Depardieu, Gérard Lanvin, Gérard Darmon, Gérard Butler. Il faut que ça soit des acteurs ou des actrices à chaque fois.
J'en ai un
prénom.
Acteur, okay. Actrice, Gérard. Réalisateur, ça passe pas en plus.
Non, réalisateur ça passe pas. Alors l'acteur peut être réalisateur, il faut juste qu'il ait été réalisateur à un moment.
Mais c'est toi qui donne le prénom du coup.
Alors c'est vous qui me donnez le prénom. C'est-à-dire que vous avez 20 secondes pour réfléchir à partir de maintenant. Donc moi je vais meubler. Tranquillement. Ils réfléchissent.
Mais c'est sur leur portable.
Ah non, ils checkez pas sur vos téléphones.
C'est sur le téléphone.
Vous checkez pas sur vos téléphones.
Ça dénote, ça dénote.
On balance. Ok.
Ils prennent des notes sur le téléphone.
Donc seulement des acteurs.
Seulement des acteurs ou actrices comme tu veux. Si jamais il y a égalité, je demanderai un de plus et ça sera au celui qui gagne, évidemment. Je vais bientôt dire que les 20 secondes c'est terminé. Vous pouvez tout à fait jouer chez vous, vous pouvez gratter un petit peu. Et puis si vous arrivez à battre nos concurrents, bah bravo, vous les aurez battus. Stop. Tout le monde dit stop. Donc là je vais vous demander des exemples. Si jamais il y a 4 partout, vous surenchérissez jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. S'il n'y a pas de gagnant, pas de groumph pour personne. Donc on est toujours à un groumph 0. On va commencer par, à ma droite, tiens, Laurent, Maxime. 4 prénoms, quel prénom avez-vous choisi ?
Le prénom Jean.
Jean ?
Oui.
Tout simplement. C'est un bon choix, c'est tactique, on y va.
Le premier c'est Jean Reynaud.
Mm-hmm.
Le second c'est... Laissez-moi vérifier ma note. Jean Rochefort.
Okay. Ils sont pas sur... je contrôle les écrans.
On le en a troisième, deux. C'est Jean Gabin.
Oui. Tu es hésitant sur ta voix.
Et le quatrième, je prends tout mon temps.
Mais c'est j'en sais rien.
On a pas trouvé. Au moins, ça ferait une vanne de merde. Vous avez déjà perdu, mais je suis curieux d'attendre les quatre que vous avez de votre côté. Vous avez choisi quel prénom ?
Alors, il y a Chris Evans.
Ah, Chris Hemsworth.
Ouais.
Chris Pratt. Et le dernier, c'était... Et
moi, j'en... Chris O'Donnell.
Très bien.
Ah, oui.
Il y avait Chris Prolls aussi.
Une vanne de
le mot est rigolo.
Voilà, c'est vrai. T'as raison. C'est important d'être rigolo dans la vie. Ça fait donc deux grooms phase 0. On est toujours bon au niveau
merde.
Des droits. Je vais vous demander un film des années 2010 avec Robert Downey Jr. qui n'est pas franchisé.
Zodiac.
Le juge.
Zodiac.
Le juge, le Zodiac était avant. Mais c'était short, il a dit le juge, ça fait 3.
Bien joué.
Il y avait aussi Chef, il fait une toute petite apparition,
ah oui,
de John Favreau.
Ah oui, c'est vrai qu'il est dedans.
Et Date Limite 2010 avec Galifianakis, une espèce de road trip comédie. Ça valait son pesant de cacahuètes. 3 grooms phase 0, va falloir se rattraper. Ouais. Je vais vous demander un film avec Bruno Carrette, c'est le membre des nuls qui est décédé, le premier. Il n'est pas évident, il y en a deux.
Milou en met.
Milou en met, tout à fait, de
oh
l'Ouvrage.
Mais lui, il était...
On est trop jeune pour ça.
Non, mais il était pas dans la...
Vous avez déjà perdu d'avance, on a la force de l'expérience avec
lui.
C'est
de la peur,
c'est
il fait
fini
une apparition,
pour
mais il était déjà mort.
Bah, il était déjà mort. C'est Mizu Mizu, c'est le pétomane.
Du coup, s'il apparaît...
Je le comptais pas.
D'accord.
Je le comptais pas, c'est un caméo, il apparaît dans une vidéo qui avait déjà...
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Moi, je suis fan des nuls, j'étais obligé de répondre.
Oui, mais Bruno Carrette, c'est évidemment le meilleur, juste après Dieu, évidemment. Un film d'horreur que je n'ai pas vu, sorti entre 2000 et 2017.
Ghostland.
J'ai pas... Il est sorti cette année, je crois.
Ouais, ah, 2018,
il est sorti,
ouais.
Sorti cette année.
Annabelle.
J'ai vu.
Esther.
J'ai vu.
The Pact.
J'ai vu.
The Pact 2.
J'ai vu.
Starry Eyes.
J'ai vu. Sur Netflix, il était très bien.
Là, je...
Shooter des films d'horreur à la limite.
Pâche.
Scream 4.
C'est justement le problème.
Vu. Le. Comment ? Cauchemar on Elm Street, le nouveau, le remake. XX, j'ai pas vu. C'est l'anthologie sur les.
Réalisé par des femmes.
Je ne l'ai pas vu.
Ah, oh, c'est nul à chier.
C'est nul.
Ah, c'est. Putain, c'est quelque chose.
C'est un film de OG. Enfin, je... bref.
Ouais.
Je cherchais.
C'est un groupe phase 0 en plus, si j'avais vu les OG.
Ah,
un groupe de plus, c'est. Faut pas remonter.
Ouais, c'est ça. Vrai. On jouera pour le fun.
C'est ça. Bon, oui, on est là pour s'amuser.
Oui, il y a d'autres questions, ce serait dommage de l'avoir fait pour rien.
Une actrice qui a gagné 4 Césars ou plus.
Catherine Deneuve.
Non.
Audrey Tautou.
2, je crois. Non. Juliette Binoche en plus. Il y en a 3. Dont une qui en a gagné 5.
Annie Girardot.
Non.
5 de meilleure actrice.
Ouais.
Meilleure actrice ou meilleur second
Alors,
rôle tout.
Sophie Marceau.
Il y en a une qui a gagné une meilleure actrice et deux meilleurs second rôles et trois meilleurs second rôles, je crois.
Il y a
Sophie Marceau
qui a été lancée ici.
Non.
Non.
Vanessa Paradis.
Et il y en a une qui en a gagné 4 de meilleure actrice et une qui en a gagné 5.
Isabelle Huppert.
Ah putain.
Non.
Mais
par contre, elle a énormément de nominations, mais non.
Romy Schneider.
Non. Il y a peut-être un prénom qui a été lancé, qui est partagé par celle qui a eu 5 Césars.
Isabelle Adjani.
Ouais, Isabelle Adjani complètement. Ah, le premier étant en possession et puis après ça a roulé. Il y avait aussi Nathalie Baye et Dominique Blanc.
Dominique premier groom, bravo.
Ouais.
Dominique Blanc, ouais.
Ça c'est vraiment les années 80, ça nous a flingué les trucs.
5-1. Un fan footage des années 90 qui n'est pas The Blair Witch Project.
Rec.
Non, c'est après.
Types.
Non, c'est après, c'est 2005-2006, largement.
Tu peux expliquer le principe du fan footage ?
C'est ces films tournés caméra numérique comme si c'était des films de vacances ou des films
caméra numérique.
Genre,
ils retrouvent le truc après et du coup, voilà.
Qui datent, qui sont dans les années 80. Qui est dans les années
80. C'est une excuse pour faire des films pas chers.
Donc, déjà, Cannibal Holocaust, c'est
ouais,
bon avant, c'est pas
ouais.
Celui-là. C'est un que vous connaissez tous. Il y en a deux que vous connaissez pas forcément, qui sont un peu chauds. Mais il y en a un que vous connaissez forcément.
Paranormal a été fait dans les années 90.
C'est pas exactement
Paranormal Expérience.
C'est que ça change les vidéos. C'est
un film. C'est pas un film américain du tout.
C'est un
film d'horreur en soi, mais.
C'est un film français.
C'est un film belge.
Mais oui, c'est arrivé. Ah
oui, c'est arrivé. Voilà.
J'aurais pas dû poser la question. Du coup, j'étais incapable.
C'est arrivé près de chez vous.
92.
En effet, il y avait The Last Broadcast qui était en 92 aussi. Et on peut compter Forgotten Silver parce que c'est un mockumentaire. Et il y a des parties qui sont supposées être du fan footage.
92, ça ne me rajeunit pas.
C'est vrai. Tu étais bien au chaud à l'époque.
ou déjà présent, ça, ça dépend de la période.
C'est ça. Un film sorti, donc ça fait Sigrumf à 2 je crois, ou à 1,
malheureusement.
Bon, on joue pour le fun. Un film sorti en 2017 dans plus de 100 salles en France, mais qui a fait moins de 40 000 entrées.
Ah dur.
De 2017, ouais,
c'est dur. Donc hein. plus de 100 salles, ce qui est une belle distrib et qui fait moins de... Bad Buzz fait 45 000 et 4.
Qu'est-ce qui est bidé,
qui a fait combien moins de,
bah, moins de 40 000 entrées.
C'est un film de quelle origine?
Il y en a 4, il y en a 2 français et 2 américains.
Le
et
manoir.
Et que vous connaissez.
Song Tu Song, non?
Non, pas le manoir. Pas Song Tu Song. Alors après, il y a des films qui ont sûrement fait moins, mais qui ont eu moins de 100 salles. Moins, moins de 100 salles.
Mmh. Non, mais c'est ça, alors, j'ai 100 salles.
C'est ça, au moins. Alors, il y a un film dont on a parlé dans une des toutes premières émissions, et c'est Florent qu'on a parlé. Une des toutes premières.
Essaye de regarder sur ton téléphone, là.
Il y a... It's a Beautiful Day, je crois.
Non,
pas,
non. Il y a un film qui est avec Mélanie Laurent, pas aussi.
Bah, j'ai pas dû voir ça.
Vous avez pas du tout.
Attends, je vais pas voir les films d'horreur, moi j'ai déjà dit.
Moi j'ai pas voir les films de Mélanie Laurent.
Celui qui a fait le moins d'entrées, il a fait moins de 21 000 entrées, c'est Outsider. C'est un film avec Liv Schreiber et Elisabeth Moss.
Je connais pas.
Mais... on en a tous entendu parler, c'est un biopic sportif.
Sur un.
Qui est tombé complètement.
Louis Armstrong ? Non, pas. Non, le.
Lance Armstrong ? Non, non, non.
C'est celui dont j'ai parlé ?
Ouais.
Mais qu'est-ce qui m'arrive ?
C'est Borg McEnroe.
Oh, mais oui !
Borg McEnroe qui a fait genre 30 000 entrées.
Les gens m'ont écouté en fait.
Oui,
c'est ça.
Quel influenceur !
Terrible, tu es. On a saturé les foudres d'un distributeur.
Il y avait 39 000 entrées avant que tu ailles le voir. T'allais le voir, t'as dit derrière.
Alors, c'est fini. On va faire un simple, je pense. Pour faire l'avant-dernier, ça fait donc 6 groupes FA2 maintenant. 7 groupes FA1. 7-1. Un film italien avec un nom d'animal dedans.
Il y a une panthère dans.
Et le nom de l'animal
la
est.
Féline, la féline, la féline, elle peut pas être la féline.
Féline Roma. Pas du tout, il n'y a pas d'animal là-dedans.
Non, mais je me disais un félin.
Oui, j'ai pensé à. Oui.
Le léopard.
Le guépard.
Le guépard. Ah.
C'est donc la mauvaise personne.
Dommage, voilà. Le guépard de Visconti 63 et aussi le pigeon de Monicelli 58. Ah oui. Alors, la dernière question, je suis plutôt content de moi. J'espère que ça vous fait rigoler. On y va.
Donc ça va pas
je veux 3 films qui font, en s'additionnant, une somme totale de 17. Par exemple, 12 Salopards, 5 et Zero Dark Thirty, ça fait 17. Ocean's Eleven, 4 Lions et 3 couleurs rouges.
Ouais, mais là, tu donnes trop d'exemples.
Ça fait 17.
Ouais.
Vous êtes les premiers. Il me faut une suite de films.
3 films.
Il me faut 3 films, exactement 3 films, en les additionnant. Il faut qu'il y ait un chiffre dedans, ça fait 17. Attention, 3 mariages et un enterrement, ça fait 4.
Ok. On a le droit à aucun.
Mais du coup, par exemple, si je commence par Halloween 15,
bah après, tu me sors 2 films différents qui font.
Bah, Scream 3 et.
Ça fait 18. Il faut faire pile 17.
Ah oui, non, pardon. C'est... Bah, dans ce cas, attends, bah, je les sors.
2, plus simple.
Non, ça fait que 2.
Halloween 15 et Scream 2.
Halloween 15, je sais pas s'il existe.
Non, marche.
Il
y a des téléfilms aussi.
Florent, il a réfléchi.
Alors, il y a Ten, c'est un film de Blake Edwards. Ça fait
10.
Two Days in Paris.
Ça fait 12.
Julie Delpy, 12.
Donc 5.
Donc 5.
5. Le cinquième élément.
Allez, ça compte. Ah, allez, ça fait 17. Mal. Bravo.
C'est beau.
Voilà.
Bravo.
C'est une victoire écrasante.
T'as survolé la partie. Hein.
Ah,
c'est vrai qu'il était. Tu étais né près. C'est là, comme on dit dans Jack Burton.
Le plus près de toi, le plus près du téléphone. on pourra remettre des doutes sur sa victoire. Mais c'est grave, laissons-le.
Celui qui a gagné, évidemment, donne le coup de projo. Florent, je sens que tu es chaud, mais. Tu vas devoir laisser ta place à Julie. Parce qu'elle me vend du rêve avec ses films polonais et tchèques. Et j'ai fortement envie de voir une comédie tchèque. Alors que me proposes-tu?
Alors,
Julie,
je vais vous.
Ah non, on partait pas sur des films de science-fiction polonais, hein, non?
On les aura à un moment.
Oui, mais vu que Robin avait l'air assez volontaire pour une comédie et que je crois que ça n'a pas encore été proposé
et que,
pour
façon,
un coup
de
projo.
De toute façon, t'aimes pas rigoler, ça tombe bien.
Donc, je vais vous proposer un film sympathique et pas trop prise de tête qui s'appelle Un jour, un chat. Qui est sorti en 1963 par Jasny, j'espère ne pas avoir écorché le nom du réalisateur. Et sans vous en dire trop, c'est l'histoire d'un chat qui colorie les gens en fonction de s'ils sont hypocrites ou s'ils prononcent des mensonges. Et c'est une critique du communisme.
C'est trop bien. Ça a l'air d'accord. Super. Il y a rien de plus marrant que les critiques du communisme.
Ouais.
Avec des animaux
déjà.
Avec des chats. Ça me va voilà. Parfaitement.
T'as vu donc un jour sur les critiques du communisme quand même qui était
pas trop
chier
drôle.
Tout à l'heure. Donc,
c'est bon. Ce que je me suis dit en disant tellement cette phrase. Je vous dis du coup à l'émission prochaine. Un jour. Non, c'est quoi ? Une vie un chat ?
Un jour un chat.
Un jour un chat. C'est parfait. On dirait une émission sur la 2 à 15h.
Ouais. C'est ça qui vient avec Topor.
À l'émission prochaine, on vous a pas conseillé un max de films, mais en même temps, bah, c'est ce qu'on avait sous la main. Et puis, bah, à plus, j'ai envie de te dire.
Salut.
À très bientôt.
Salut. Ciao.